On croit souvent que notre expertise suffit, mais notre expertise, elle est à mettre à moitié à la poubelle si tu ne sais pas l'exprimer. Parce que certes, tu peux être expert ou experte, mais si tu ne sais pas communiquer cette expertise ou convaincre, ton expertise ne te sert à rien. Donc en gros, la prise de parole, pour moi, c'est ce qui vient mettre en valeur qui tu es et ce que tu sais faire. Mon métier me passionne et m'apporte du bonheur. Je suis coach, je suis formatrice en prise de parole en public. Et je viens du monde du théâtre qui m'a beaucoup portée et qui continue aujourd'hui à me nourrir et à nourrir mon travail et ce que je suis.
C'est quoi pour toi les éléments clés pour être bon en prise de parole, pour être convaincant, pour transmettre ses idées?
Je dirais...
Vous êtes ici ce soir dans le cadre de l'opération
Tous Amis avec Sarkozy. Où nous recevons des amis de gauche de Nicolas Sarkozy.
J'apprends deux choses ce soir. Un, je suis de gauche. Deux, je suis pote avec Sarkozy.
Ouais. Bernard, ce soir en P1, nous parlerons de vous, la vie, l'amour, la mort.
Tapis, hyper intéressant. Parce qu'en fait, le mec n'a pas du tout une prise de parole qui est lisse et polie. Lui, il laisse libre cours à sa singularité totalement. C'est ce qui a fait aussi son succès. Et il est bourré de tics du visage. Oui. Tu vois qu'il juge les questions de son interlocuteur. Oui. En fait, c'est tout ce qu'on déconseillerait à un orateur.
Là, j'ai une conférence samedi. Comment tu me conseilles de structurer une intervention?
Je pense que ce que les gens ont envie de savoir, c'est pas qui tu es, mais c'est ce que tu vas leur apporter tout de suite. Si dans les 10 premières secondes de ton intervention, ils sont pas montés, encore une fois, dans ton véhicule, ils vont pas monter après. Toi, ton train, il va partir. Les 10 premières secondes, elles sont fondamentales. Donc avoir une accroche forte, quelque chose qui vient réunir et qui vient les impliquer tout de suite. En général, tes ressources de prise de parole, tu les mets très basses. Par contre, la dangerosité de la situation, de l'audience, de leur jugement, de l'enjeu, tu les mets hyper haut. Et c'est le gap qui existe entre ces deux niveaux qui crée l'état de stress. Donc l'idée, c'est de...
Avant qu'on démarre l'épisode, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire comme quoi les épisodes qu'on fait, ça vous aide. Et ça, ça fait trop plaisir. Ce qui nous surprend, c'est que vous êtes 74% à suivre les épisodes et ça, sans être abonné. Vous abonner, c'est le moyen gratuit et le plus simple de nous aider à produire des épisodes de plus en plus fous avec des invités délirants. Donc en tout cas, merci pour votre soutien et bon épisode.
Bonjour, et Camille Valcan, et c'est parti.
Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi pour comprendre la femme que j'ai face à moi?
Ce que tu as besoin de savoir sur moi, d'abord, c'est que je suis très contente d'être ici. J'ai 39 ans, je m'appelle Camille, je suis parisienne. J'aime Paris et je déteste Paris à la fois.
Okay.
J'aime être là où je suis, ancrée, et en même temps, j'ai beaucoup besoin d'ailleurs. Ça, c'est un point hyper important.
Okay.
Je suis en quête de bonheur au quotidien, dans les toutes petites choses. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et mon métier me passionne et m'apporte du bonheur. Je suis coach, je suis formatrice en prise de parole en public. Et je viens du monde du théâtre qui m'a beaucoup porté et qui continue aujourd'hui à me nourrir et à nourrir mon travail et ce que je suis. Donc la communication, c'est vraiment le centre. On peut dire ça, ouais. Comme pour tout le monde, mais particulièrement en tout cas.
Mmh. Et tu disais dans des petites choses, c'est quoi les petites choses qui créent du bien-être dans ta vie?
Cuisiner et manger, ça peut paraître hyper bête, mais en fait je trouve que c'est... Ce que tu mets dans ton corps, ça a un lien direct avec ton énergie, avec ton esprit, ta vitalité, avec le plaisir, le goût. Et attention, hein, je suis pas du tout une personne qui fait hyper attention à ce qu'elle mange, mais j'adore cuisiner en fait. C'est un bonheur 3 fois par jour qu'on peut prendre. Allons-y, profitons.
Donc, vraiment ça donc.
Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Et cuisiner, c'est une sorte de méditation aussi pour moi. Mmh. Je trouve que tu te mets dans un état où, ouais, je sais pas, t'es en connexion avec tous tes sens, etc. Donc ça, c'est un très grand kiff. Ensuite, je m'émerveille beaucoup. Je peux rester focalisée sur quelque chose de beau à mon sens, qui m'apporte en tout cas
une vision de beauté. Une œuvre,
Ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre, ça peut être une scène, je sais pas, dans un square, tu vois.
Observer les gens.
Ouais, j'aime beaucoup observer les gens, effectivement.
Je rigole parce qu'avec ma femme, on s'imagine, parce qu'on est tout le temps en train de, on adore l'humain, donc on est tout le temps en train de regarder les gens, analyser leur non-verbal, essayer d'imaginer qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Voir quand ils se désynchronisent.
Exactement. Et t'imagines des vies, on est d'accord.
Ouais, bien sûr.
Voilà, moi pareil. Donc ça, c'est génial. On a imaginé plein de vies aussi. Et les choses du quotidien qui me procurent du plaisir, c'est me poser, bouquiner, me balader. En fait, des choses hyper simples. Okay. Voilà.
Avant d'en arriver au théâtre, c'est quoi ton histoire qui fait, parce que ce que j'observe quand même très très souvent avec soit les gens que j'accompagne, soit les gens que j'interviewe, c'est qu'on fait souvent ce qu'on fait de manière, vraiment pas par hasard. Mmh. Souvent, ça vient de notre histoire, notre enfance, de blessures, de choses qu'on a vues, des choses qui nous ont inspirées. Qu'est-ce qui t'amène au théâtre? Pourquoi le théâtre?
Yes, le théâtre, déjà depuis toute petite, donc je pense quand je suis rentrée en CP, c'est pas particulièrement moi qui l'ai choisi, mais j'ai commencé à faire du théâtre.
Et moi, j'ai compris l'intérêt, ou en tout cas l'aspect presque thérapeutique que j'ai pu y trouver assez rapidement. Parce qu'au théâtre, c'est étonnant, c'est comme si à travers le fait de jouer, je pouvais me permettre d'être moi-même. Mmh. Alors que, petite, puis à l'adolescence, je trouve que c'est très dur pour tout le monde de s'assumer. L'adolescence, c'est hyper particulier. Finalement, je sais que je rentrais pas trop dans les cases. Et à l'époque, j'avais pas la maturité pour me dire, bah, c'est bien, je suis unique.
C'est ok, je peux le faire.
Exactement. Et le théâtre me permettait justement d'exprimer des choses qui sortaient de la norme à un moment où on n'allait pas me dire, bah non, c'est pas comme ça. Exactement. Une fille porte une robe, marche comme ça, etc. Et donc, au théâtre, je pouvais être moi-même. Donc ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Ça m'a permis aussi de pas avoir honte ou peur du ridicule. Donc ça, c'était important, le regard des gens.
Parce que ça t'entraîne, c'est dans ce sens-là? Parce que c'était obligé de faire face à ce regard des autres
exactement.
Dans l'exercice du théâtre.
Exactement, et que t'apprends un petit peu à te mettre à nu devant des gens qui te regardent, que tu dois soi-disant émouvoir ou faire rire. Et en fait, quand tu fais un petit peu de théâtre, très rapidement, tu te confrontes à des situations qui font que... C'est pas que tu n'as plus peur de rien, mais tu n'as plus peur du regard des autres. Et c'est vrai que moi, rapidement, ça m'a fait cet effet-là. Ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Ça, c'est une chose... Et deuxièmement, j'ai trouvé dans le théâtre un moyen aussi de dire et d'exprimer, au travers de l'improvisation par exemple, tout ce que je ne pouvais pas dire. Donc m'exprimer au travers de qui j'étais sur le plan physique et de l'image, et m'exprimer au travers du verbe, ce qu'on ne me permettait pas forcément de faire non plus, ou ce que je ne me permettais pas de faire.
Parce que t'as eu quelle éducation? C'est comment ils étaient tes parents?
Mes parents, ils étaient assez classiques.
Mais plutôt stricts, plutôt rigides, justement, dans ce côté relativement rentré dans la case.
Avec des attentes de normes, en tout cas.
Ouais.
Tu vois, des attentes assez binaires. Et j'entends, hein, je critique pas, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que, tu vois, ce qu'une maman peut projeter sur sa fille n'est pas forcément ce que l'enfant veut.
Mais par exemple, c'était quoi une chose que tu avais l'impression qu'elle projetait sur toi et que tu voulais pas?
Ah bah la féminité, à l'état pur. Tu vois, moi j'ai mon identité en tant que personne et en tant que femme, avec laquelle aujourd'hui je suis très à l'aise, parce que je peux être moi-même et que j'en ai rien à faire de ce qu'on me demande d'être. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à mon compte, que je travaille et que je décide des choses dans mon travail en tout cas. En revanche, ces dictats, tu vois, de physique et d'apparence, moi ça m'a énormément pesé petite. Et je sais que...
Parce que ta maman, elle est plutôt dans le cliché un peu plus féminin?
Ouais, de la bourgeoise féminine, on va dire.
Okay.
Totalement.
Okay.
Un peu, la vieille France, quoi, tu vois.
C'est dans ce sens-là?
Ouais, totalement.
Enfin, entre guillemets, tout est un peu sous contrôle, quoi.
Sous contrôle, et surtout où on te dit que l'image que tu donnes à voir, que tu renvoies, elle est hyper importante, qu'il faut plaire, qu'il faut... Bah non, regarde, une petite fille ne fait pas ça. Une petite fille ne s'habille pas comme ça. J'avais l'impression d'être tout le temps freinée. Et je ne leur en veux pas, hein, c'est des gens très bien, mais d'être tout le temps freinée dans le fait de pouvoir être qui je suis. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis maman, je trouve ça mais fondamental, c'est ma priorité de dire à mon fils tous les jours, en fait, tu peux être
qui tu veux.
Mais qui tu veux. Et même si ça ne me plaît pas à moi, et d'ailleurs, si ça ne me plaît pas à moi, tant mieux. Non, mais vraiment, c'est hyper important.
Pourquoi tant mieux? Pourquoi l'autre extrême?
Parce que je sais que moi, ça m'a pourri la vie de devoir plaire, en fait, par exemple, à ma mère. C'est bête, mais je le porte encore, je pense. Et tu veux, évidemment, tu veux faire plaisir à tes parents. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée aussi.
Donc, ça a révélé un peu ce côté rebelle chez toi.
Ah ouais, totalement. gros côté rebelle qui a pu s'exprimer un petit peu et qui ensuite m'a porté un tout petit peu plus préjudice parce que, après coup, c'était... on me disait, bon, bah, attention, quand même, on sent que t'es sur tes gardes, tu fais confiance à personne, t'es un oursin. Donc, effectivement, je pense que j'ai aiguisé mes griffes et qu'ensuite, c'était peut-être un petit peu trop.
Ouais.
Mais bon.
C'est normal, on fait tout ça, de partir à droite, aller trop loin, ensuite, potentiellement, aller trop loin dans l'autre sens et on trouve la ligne progressivement de virage en virage.
Totalement, et on passe notre vie à faire ça, et tant mieux, en fait, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas qui nous serons demain, en gros, je crois.
Yes. En tout cas, moi, j'aime ce côté rebelle.
Okay.
Ça fait partie un peu de la ligne directrice de Paradox. Tu vois, derrière une de nos phrases, c'est « Defy the status quo », défie le statu quo. Et j'adore les gens singuliers.
Okay.
Et, en tout cas, enfin, je pense qu'on est tous singuliers, mais j'adore les gens qui l'assument.
Totalement.
Qui osent... Il y a une phrase comme ça que je vais paraphraser d'Einstein qui dit... C'est un truc du genre comme ça. Mon dédain pour l'autorité m'en a fait devenir une. Et vraiment, un truc comme ça, je trouve que c'est puissant.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui t'amène à passer du théâtre à accompagner les gens sur leur prise de parole?
Le théâtre, ça a duré 10-12 ans. Le fait que je bosse dans le théâtre, et c'était super. Sauf que je me suis un peu épuisée en termes de rythme et d'équilibre quand tu fais du théâtre, soit que tu joues ou que tu mets en scène, ce que je faisais. C'est bien, mais sur le plan mental et physique, c'est assez instable, en tout cas pour ma part. C'est-à-dire que tu dois en permanence chercher des cachets, renouveler ton intermittence. Tu répètes des pièces de théâtre jusqu'à pas d'heure où t'es pas forcément payé. Donc, il y a un déséquilibre qui, au début, moi, me plaisait parce que je trouvais ça hyper fun. C'était un peu rebelle comme rythme.
Ouais, c'est la vie d'aventurière.
Exactement, complètement. En plus, on jouait beaucoup en troupe et tout. C'était très festif, donc trop cool. En revanche, il y a eu un moment où moi, ce rythme ne répondait plus à un espèce de cadre dont j'ai eu besoin. C'est bête, mais à partir de, peut-être 29-30 ans, j'ai eu envie de me sentir plus ancrée, de plus décidée pour moi aussi. Parce que en tant que comédienne, alors c'est très bien, mais quand on te met en scène, tu te laisses beaucoup diriger quand même. Même si c'est toi ensuite qui incarne. Et je voulais beaucoup plus entreprendre. Donc ça, c'était hyper important, d'entreprendre. C'est bête, je savais pas trop ce que ça voulait dire à l'époque, mais j'avais envie en fait d'avoir une idée, de la concrétiser. Et puis, il y avait l'aspect financier qui m'intéressait beaucoup. J'ai pas honte de le dire, je trouve pas ça vulgaire, l'argent. J'avais envie en fait d'avoir un petit business qui fonctionne, de réussir à valoriser autrement que par l'intermittence du spectacle, qui est génial, hein, y a aucun souci. Enfin, c'est génial. C'est bien en France, je trouve que les comédiens pourraient aussi être mieux payés, c'est pas le sujet, mais... Moi, j'avais envie de pouvoir décider, en fait, de la valeur de mon travail. Voilà, ça, c'était important. Et surtout, le lien entre le théâtre et la prise de parole, ça a été de trouver le bénéfice des outils du théâtre, mais ailleurs qu'au théâtre. Parce que le théâtre, c'est très bien. Jouer sur scène, c'est très bien. Apprendre à avoir une bonne posture, un bon souffle, une bonne gestuelle de comédien, comédienne, pourquoi pas. Mais dans la vie, au quotidien, personne ne nous l'apprend. Alors qu'en fait, la plus grande scène, S-C-E-N-E, c'est bien la vie. C'est bien l'image qu'on montre aux autres, la parole qu'on énonce. Et ça, personne ne nous apprend à le faire. Mmh. Alors bien sûr, on peut prendre des cours de théâtre en tant qu'adulte, mais sortir les outils du théâtre comme lieu à proprement parler, et les emmener soit en entreprise, soit en start-up, soit auprès de tout type de profil d'ailleurs, pour leur donner les clés d'incarner mieux leurs propos, ça m'a énormément branché.
On va creuser d'ailleurs ce que tu as appris du théâtre et certainement d'autres outils que tu as acquis avec le temps, pour le prendre à l'envers.
Yes.
Ça m'intéresse de creuser qu'est-ce qui ne s'agit pas de prendre du théâtre. Et la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que... Et justement, je l'ai beaucoup moins retrouvé chez toi, c'est ce qui m'a donné envie de creuser avec toi. J'ai trouvé, dans mes perceptions, chez beaucoup de coachs prise de parole qui viennent du théâtre, quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout attirant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de me transformer... en un cliché de personnes qui s'expriment au théâtre, et c'est particulier l'expression au théâtre, sur scène, la manière que tu vas avoir d'articuler. Et donc, il y a plein de choses qu'on va creuser ensemble qui sont à prendre, c'est certain. Qu'est-ce que tu dirais qui n'est pas à apprendre quand on vient du théâtre? Pour pas devenir... J'entends. J'ai un autre exemple d'un pote qui est voix off. Il fait des voix off de télé, etc. Et en fait, pareil, sa capacité à moduler sa voix, elle est exceptionnelle. Enfin voilà, c'est sûr. Mais je trouve... que dans l'ère actuelle où on parle en podcast de manière relativement naturelle, sur YouTube où on parle de manière plus naturelle qu'un présentateur télé, que tous ces conseils-là, ils vont avoir tendance à créer un personnage là où les nouvelles générations veulent un côté, authentique, naturel, qui n'est pas du tout celui qu'on voit dans un personnage de présentateur télé, par exemple. Et pareil, je vois des présentateurs télé qui ont du mal à s'adapter à YouTube parce qu'ils sont tellement formatés à une manière de parler. Donc, bref, t'as compris ma question.
Qu'est-ce qu'on n'emmène pas du théâtre dans la prise de parole ? Très clair. C'est assez contradictoire parce que tout à l'heure, je te disais, les outils du théâtre peuvent être utiles au quotidien parce que le quotidien est une grande scène.
Ouais.
Mais je te rejoins dans le sens où, évidemment, quand on prend la parole devant une audience professionnelle ou, un mariage ou à un moment où on doit convaincre, on switch un tout petit peu en mode « je prends la parole face à des gens ». Je ne suis pas seule face à mon miroir. Et en fait, pour moi, on est réellement soi-même que lorsqu'on est seul. C'est vrai. Enfin, moi, je le constate, en tout cas.
Ou avec des très, très proches.
Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi, je le ressens aussi. Mais on est à 10 000% soi-même quand on est seul, quand même. Si on y pense très, très profondément, je trouve que c'est ça la réalité. Mais j'entends ce que tu veux dire. Et l'idée des outils à ne pas emmener, justement, dans ces prises de parole de la vie quotidienne, c'est de trouver le juste milieu entre cette singularité qu'on veut exprimer, mais qu'elle soit accessible, qu'elle soit portée par une certaine technique, quand même, qui permette, en fait, de faire naître cette singularité, qui te permet de lui donner accès à toi-même, aux autres. Je m'explique. Moi, j'accompagne des clients, par exemple, qui ont des personnalités assez, assez brutes, tu vois. Un peu ce que moi, j'étais quand j'étais ado, qui ne sont pas polis du tout, au sens un rocher poli, tu vois ce que je veux dire, un caillou poli. Et ces personnes-là, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y a une essence qui se dégage d'eux. T'as envie que ce soit accessible, qu'ils se fassent entendre. Mais en fait, cette singularité, cette rugosité peut aussi les empêcher d'être compris, de bien s'exprimer. Parce que l'émotion, parce que le feu va venir entamer, je sais pas moi, leur diction, leur respiration, l'émotionnel, quoi, qui prend le dessus, tout simplement. Donc je pense que l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre une émotion qui est au service de ta prise de parole et qui vient pas la recouvrir, et une technique, c'est ça qu'on prend du théâtre, qui est quand même présente pour venir soutenir cette singularité-là. Et je crois que la technique, elle est utile dans ces moments-là pour venir exprimer cette singularité. Cependant, si la technique, tu la mets trop au service de cette singularité, bah, la singularité, elle est totalement étouffée. Donc je pense que c'est une question d'équilibre. Et que tout ce qui est issu du théâtre, comme tu le disais tout à l'heure, en mode un peu trop robotisé, n'est pas à prendre si tu veux en tout cas être toi-même.
Du coup, Camille, pourquoi c'est indispensable de mettre de la valeur sur la prise de parole en public? Il y a des gens qui peuvent se dire « Oh, mais c'est que pour les personnes qui passent à la télé, qui font des pitchs. » Pourquoi en fait, tout le monde, on a un vrai intérêt à s'intéresser à ça? Ou qu'est-ce qui se passe si on s'y intéresse pas en fait?
Bah, d'abord pour deux raisons. D'une, parce que c'est vital. Je pense que t'exprimer, c'est fondamental. Pour exprimer qui tu es, prendre la parole, pour moi, c'est prendre sa place, clairement. Ça veut pas dire pousser tous les autres, mais être qui tu es au travers de ta parole, c'est vital. Ça te permet d'être en bonne santé, exprimer tes idées et les exprimer clairement. Donc avoir les outils pour le faire, pour moi, c'est un synonyme de bien-être, d'épanouissement et de confiance en soi. Ce serait dommage de pas s'en occuper. Deuxièmement, on croit souvent que notre expertise suffit, que ce soit sur le plan professionnel ou autre d'ailleurs. Mais notre expertise, en fait, elle est à mettre à moitié à la poubelle si tu ne sais pas l'exprimer. Parce que certes, tu peux être expert ou experte, mais si tu ne sais pas communiquer cette expertise ou donner envie sur ce que tu sais faire ou tout simplement faire acheter ou convaincre, ton expertise ne te sert à rien. Donc en gros, la prise de parole, pour moi, c'est ce qui vient souligner, mettre en valeur qui tu es, et ce que tu sais faire. Donc ça dépasse un certain niveau et que ce soit communiqué.
Quel est le prix qu'on paye, peut-être dont on ne se rend pas compte, quand on ne met pas de valeur sur notre communication? Ou peut-être qu'on se rend compte, mais en tout cas, c'est quoi le truc bien frustrant ou que plein de gens en fait, vont se dire « Ah putain, c'est vrai !»
Je pense que tu peux énormément stagner dans la vie. Et pourquoi pas, il y a peut-être des personnes dont la stagnation est un grand confort. Mais je pense que non, on a tous envie de voyager, pas forcément d'évoluer, mais de voyager dans la vie. Je pense que ne pas travailler ta communication, ça te bloque sur plusieurs plans, sur le plan relationnel déjà. C'est bête, mais il ne s'agit pas quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît ou avec qui tu veux rentrer en communication de lui faire un grand discours, mais de prendre sur toi, de maîtriser ton émotion et de réussir à exprimer, je ne sais pas, ton envie ou tes sentiments. Ça me paraît être fondamental, ne pas passer à côté d'une rencontre. C'est le truc le plus précieux du monde. Et même si cette rencontre, elle aboutit sur rien, c'est pas grave, tu l'auras fait. Mais en fait, ne pas oser. Voilà, c'est ça l'écueil. C'est-à-dire que quand tu prends pas la parole, en général, tu n'oses pas. Et donc, tu ne sais même pas si tu es capable de faire, rencontrer, proposer, développer. Pour moi, la parole, elle est attachée à toutes ces énergies-là, qui sont des énergies vitales de développement de soi vis-à-vis des autres. On n'est pas seul, on est avec les autres.
Et ce qu'on se rend pas compte, je trouve, c'est que à quel point ton banquier va te juger sur comment tu t'exprimes, va t'offrir des opportunités, va rendre possible des choses impossibles en fonction de comment tu t'exprimes. Les gens vont t'aider, tes clients vont dire oui ou non, tu vas créer des opportunités. Enfin, les gens me demandent comment j'ai eu de certains invités un peu fous, par exemple Richard Branson, j'en parle souvent. Ça va jouer en 45 secondes,
bien sûr,
mon attitude, comment je le regarde, ma confiance, comment je lui parle. Et ça, accumulé sur 10 ans, c'est des vies qui sont stratosphériquement différentes.
Ah, mais t'as totalement raison. un appart, un logement que tu veux avoir, un boulot,
ouais.
Une négociation, une rencontre. J'allais dire tout, mais non.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses se jouent sur la qualité de ta communication.
La manière de formuler une idée, d'influencer.
Alors ça, c'est plus dur, mais c'est, non, mais c'est fou, parce que moi, c'est le truc où tous les jours, je me dis, mais attends, c'est, quand même, c'est ton taf et tout, tu vas y arriver. Et je suis face à mon fils, je me dis, bah, j'ai tout perdu, j'ai tout oublié. C'est vrai, parce que c'est pas du tout la même chose. Après, oui, si tu te mets à réfléchir sur stratégiquement comment lui faire comprendre que... Enfin, je sais pas, mais...
J'imagine quand même... C'est clair qu'on ne s'attire pas les enfants par hasard et je suis convaincu qu'il vient te challenger. Néanmoins, j'imagine qu'il y a des choses où tu t'en rends même pas compte toi-même, que tu as pu lui exprimer plus clairement, là où un autre parent n'aurait peut-être pas su articuler...
T'as raison.
...son idée.
T'as raison. Alors, c'est pas mieux qu'un autre parent, mais t'as raison.
Dans le sens pas forcément mieux dans le sens parentalité, mais... pouvoir mieux exprimer son idée parce que c'est plus facile pour toi de déjà passer de ce que je pense à formuler des mots. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de dire des trucs, mais elles ne sont pas entraînées à savoir les articuler, leurs idées.
Tout à fait. Avoir les mots justes pour réussir à mettre à l'extérieur de toi ce que tu penses et ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et aussi, face à un enfant, c'est lui donner un espace. Justement, je sais que moi, ça m'aide aussi de savoir le faire parler. En fait, c'est peut-être ça pour moi le plus important. Ce n'est pas moi comment je m'exprime avec lui. C'est lui donner les clés pour
qu'il puisse s'exprimer.
En fait, t'as le droit d'exprimer tes émotions, t'as le droit d'être qui tu es, etc.
C'est quoi pour toi, si on part de manière générale déjà, les éléments clés pour être bon en prise de parole, pour être convaincant, pour transmettre ses idées? C'est quoi les 3-4 plus importantes déjà?
Très vaste sujet. Je dirais avant tout être cohérent, être aligné avec ce que tu dis, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Mais pour moi, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est l'élément principal. Si t'es en accord avec ce que tu dis, si on ne t'a pas obligé à mettre des mots en bouche, a priori, même si c'est imparfait, même si tu butes sur un mot, même si ta phrase est trop longue, à partir du moment où t'es animé par ton propos, je pense que tu peux avoir de l'impact, du charisme, chacun son terme. Ça, pour moi, c'est l'élément principal.
Okay.
Et limite, si t'as ça...
plein de choses en découlent.
T'as le feu de la communication qui est là. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rentrer en contact avec ton interlocuteur ou tes interlocuteurs, c'est-à-dire de te connecter.
Par exemple,
toi et moi, on se regarde. Moi, je sais que je vais beaucoup chercher mes mots ailleurs parce que mon esprit fonctionne comme ça, mais j'essaie en permanence de me connecter quand même.
De revenir.
Ouais, totalement, de revenir. Le regard, c'est... Alors, dès qu'on commence à y penser, tu vois, c'est un peu bizarre.
Malaisant.
Ouais, de ouf. Le regard, c'est le premier vecteur de la communication pour moi. Et c'est ce qui permet vraiment de créer un fil entre la personne ou les personnes, si t'as plusieurs personnes qui t'écoutent, et que, en fait, les mots ou même l'énergie passent. C'est bête, mais t'as un canal qui passe entre la personne qui communique et la personne qui reçoit. Tu donnes un truc, l'autre reçoit. Donc, le fait de porter ton message, donc d'être convaincu par ce que tu dis. Deuxièmement,
le regard,
effectivement. Et troisièmement, ce qu'on disait tout à l'heure, un minimum de technique. Avec toutes les imperfections, c'est-à-dire chacun a des particularités de diction, par exemple. Aucun souci, il ne faut pas les gommer. Il faut juste essayer d'être audible. Du type...
Donc, par exemple,
ne pas parler à 300 à l'heure, comme je suis en train de le faire.
Tu trouves?
C'est parce que je suis animée par ce que je dis. Chez moi, c'est plutôt bon signe. Mais je parle, j'ai plutôt un débit de parole accéléré, en effet. Et tu vois, dès que j'essaie d'y penser, j'essaie de me poser un petit peu plus, d'avoir une diction plus sereine, de ralentir. Donc, bon, je dirais que les aspects techniques qui sont fondamentaux, c'est le débit de parole.
Donc, pas trop rapide, tu dirais?
Pas trop rapide. Ou alors, tu peux varier, hein, bien sûr. On n'est pas... D'éviter toute monotonie.
Donc, la monotonie, fluctuation de la voix.
Exactement. En gros, si je te parle et que je suis monotone pendant 3 minutes, tu vas t'endormir. A priori, c'est de l'hypnose à l'état pur. Et enfin, les silences, qui sont probablement la pépite de tes messages, en fait, qui en disent beaucoup plus que tes mots. Mais j'ai envie de te dire plein d'autres choses. Donc non, il n'y en a pas que 3 des aspects techniques. Il y a toute la posture, la gestuelle, tout ce que tu inspires aussi en termes d'incarnation corporelle. Là, je suis trop gourmande, je pourrais t'en dire plein.
on va en creuser plein. Par rapport au silence,
yes.
Pour toi, parce qu'on peut faire un silence avant une idée importante, on peut le mettre après une idée importante. Pour toi, c'est quand les meilleurs moments pour mettre un silence?
Ok. Je pense qu'effectivement, les deux sont... fondamentaux. Avant une idée importante, ça vient créer l'écoute. En fait, un silence aimante l'attention de ton audience. D'ailleurs, il y a une petite légende urbaine qui raconte que, je vais dire des termes un peu abstraits, mais chez France Télécom, à l'époque, quand tu avais un problème avec ton téléphone chez toi, t'appelais les serveurs France Télécom et puis t'attendais à peu près 10-15 minutes au téléphone pour que une personne te réponde et règle ton problème au téléphone. Mais t'avais beaucoup d'attentes pour parler à quelqu'un chez France Télécom. Ok. Et donc, on raconte que en interne, chez France Télécom, un jour, le directeur a fait un grand séminaire et a réuni justement toutes ces personnes qui s'occupaient du service après-vente, en gros, j'ai des termes des années 60, on se comprend.
Service client.
Service client, merci. Il les a toutes réunies dans un amphithéâtre, puis il est arrivé, il est monté sur scène, tout le monde s'est tu, genre le boss allait parler. Et puis il a fait un silence de 9 minutes, seul, sur scène, à les regarder. Puis comme c'était le boss, personne n'a rien dit. Et au bout de 9 minutes, il a dit, c'était long, hein. Eh bien, ces 9 minutes d'attente et de silence que vous venez de vivre, c'est à peu près le temps d'attente éprouvé par toutes les personnes qui essaient de nous joindre.
Puissant.
Assez puissant, bonne accroche, très bon début.
C'est long, 9 minutes de silence.
C'est hyper long, il faut avoir de l'autorité pour faire tenir tout le monde dans une salle 9 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, lui, il a pris le pouvoir du silence à son paroxysme.
Oui, un message sur 9 minutes, mais par contre, il...
Les gens s'en souviendront toujours et les gens ont éprouvé, en fait, ce que les personnes qui cherchaient à les joindre éprouvaient.
C'est vraiment show don't tell, quoi. Montre plutôt que...
C'est exactement ça. Il a fait vivre l'expérience. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, le silence d'avant attire l'attention, capte l'attention, mais un silence après une idée énoncée te permet de lui donner de l'importance, de la valoriser, et parce que la personne va réentendre ce que tu viens de dire dans le silence. Si moi, je te dis un truc hyper important et que je fais un silence juste après, bah en fait, c'est comme si j'allais l'ancrer deux fois dans ton cerveau, doublement.
Super intéressant. Tu as parlé juste avant. Tu m'as dit donc, les trois clés, le fait d'être aligné avec son discours. Le deuxième, c'était le regard. Ah oui, pour le regard, c'est ça. Je voulais creuser avec toi un truc. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le regard. Je fuyais tout le temps des yeux tout le monde, mon père, mes parents, les gens, etc. Donc j'ai passé des mois d'entraînement à regarder les gens dans les yeux, à regarder ma caméra dans les yeux, entre guillemets. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux rentrer dans une salle, regarder dans les yeux. J'ai toujours, tu vois, t'as dit un truc, ce truc de je vais chercher les idées à l'extérieur.
Ouais.
Donc je sais que moi, j'ai ça. C'est difficile d'arbitrer quand est-ce que je fais ça parce que c'est ma manière de processer ou quand est-ce que je fais ça parce que c'est encore un héritage de ce David timide, complexé qui arrive pas à regarder dans les yeux. Et donc comment t'arbitres et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent, parce que à l'autre extrême, il y a des études qui le disent, quand tu fais que regarder dans les yeux, tu peux être perçu comme un psychopathe. C'est un indicateur d'ailleurs de psychopathie. J'avais eu une interview avec un négociateur du RAID qui me disait que lui s'autorisait typiquement en négociation à ne pas faire que regarder dans les yeux parce que ça permettait aussi une forme de posture basse dans la négociation, annoncer son prix, pas forcément rester fixé. Donc je vois bien qu'il ne s'agit pas de ressembler à l'extrême qui fait que fixer. Aujourd'hui, en fait, vu que je suis beaucoup plus à l'aise, j'arrive plus à savoir est-ce que ça vaut le coup que je continue de m'entraîner à regarder plus.
Je comprends.
Ou en fait, non, m'autoriser. Mais vu que c'est un truc qui date de longtemps, je suis très conscient quand je regarde et quand je ne regarde pas. Là où je vois que ma femme, par exemple, elle me dit c'est fou, mais je ne me rends même pas compte si je regarde les gens dans les yeux ou si je regarde ailleurs.
Ok.
Ça m'intéresse d'avoir ta vision.
Ok. D'abord, ma vision, c'est que tu as un regard hyper franc. Ce que je sais, parce que je l'ai remarqué tout de suite quand on s'est rencontrés. Et on ne se dit pas du tout que tu peux avoir une quelconque problématique avec le fait de rentrer en contact sur le plan visuel. Au contraire. Et justement, ce que tu dis, tu t'es beaucoup entraîné, etc. Alors pour moi, dont c'est le travail, là, je le constate. Et je me dis pas, wow, il a vachement bossé son regard. Non, pas du tout. Mais on voit qu'en tout cas, c'est rare d'avoir un regard si franc. Et moi, je trouve que c'est très précieux. Je suis d'accord que ça peut être malaisant quand c'est trop. Totalement d'accord. Comment faire le tri?
C'est plus quand je parle, d'ailleurs, j'ai remarqué.
Exactement.
Quand j'écoute, c'est facile.
Exactement, mais c'est normal. Enfin, je crois que c'est normal, sans porter de vérité absolue. Quand t'écoutes, tu reçois. Tu vas pas chercher des trucs. Parce qu'en plus, c'est ton travail, t'es en écoute totalement active, t'es à 100% présent, etc. Et tant mieux, trop bien. En revanche, quand tu parles, t'es en train de construire ton discours. Ce que tu vas dire après, tu ne le sais pas, sauf si tu récites par cœur et on se le déconseille, bien sûr. Et quand tu vas chercher, et là je suis en train de le faire, du coup je suis hyper consciente de mes yeux. Non, pas du tout, parce que moi je le fais beaucoup. En fait, je pense que tu peux te permettre tout à fait d'aller chercher, et à partir du moment où tu dis quelque chose d'important ou quelque chose d'adressé,
de revenir,
de te réaxer.
Quitte en à général, faire le silence, justement.
Exactement, c'est ce que j'allais te dire.
Et appuyer de ce que tu vas dire.
C'est ce que j'allais te dire. En général, moi, c'est probablement plus dans les silences et les suspensions. Donc là, c'est un peu surfait, tu vois, parce qu'on en parle, donc hop. Et ensuite, j'adresse. Et c'est vrai que très souvent, c'est ça. C'est comme si j'allais prendre un peu d'air à côté. Je trouve mon idée et je l'adresse. Et c'est vrai que si tu dis quelque chose d'important, pour moi, il vaut mieux le dire en regardant la personne. Après, je comprends ton anecdote de la personne qui te disait qu'en annonçant un prix, elle regardait pas forcément dans les yeux.
Elle regardait, mais après, elle lâche pour éviter la tension.
Ok. Et pour pas qu'il y ait d'attente ou d'envie de réponse
Pour pas qu'il y ait ce sentiment un peu de domination.
Ok, d'accord.
Parce que là, on est en plus dans une forme de rapport.
C'est pour ça que c'est un petit peu au cas par cas. Te concernant, moi, j'aurais tendance à te dire que tout va bien parce que tu regardes les gens et pour moi, c'est le principal. Il vaut mieux regarder, voire regarder un petit peu trop, que d'avoir un regard fuyant qui, pour le coup, illustre beaucoup un malaise, une gêne ou une absence. Et je trouve que c'est fondamental parce que c'est une question de respect aussi. Quand tu regardes la personne à qui tu t'adresses, juste tu la considères, la personne sait que c'est à toi qu'elle parle.
C'est assez désagréable quand t'as quelqu'un qui nous parle et qui nous regarde pas ou... Ou à l'inverse, on lui parle et il ne nous regarde pas.
Exactement.
On se sent pas important à ses yeux, quoi.
Pas important. Et puis, effectivement, à qui la personne s'adresse, c'est vrai qu'au bout de 15 secondes, si la personne ne te regarde pas, c'est un peu particulier. Et le message, il ne passe pas, hein, clairement, si tu ne regardes pas la personne. Donc, je dirais que c'est au cas par cas, en fonction du rapport que la personne a au regard. Parce que si ça met la personne qui communique trop mal à l'aise, si ça la met trop mal à l'aise de beaucoup regarder l'autre, tranquille, elle peut prendre des moments de suspension, d'aération, mais quand même un minimum de respect et de connexion.
Alors tiens, c'est intéressant, une question qui est beaucoup posée par rapport à la prise de parole, enfin, c'est assez fascinant comment c'est dans le top 3 des peurs de l'humain de parler en public. Ça fout la trouille à plein de gens. Comment être plus à l'aise selon toi quand on a une prise de parole en public à faire, une réunion, un TED, un live, on sait rien.
De manière générale, comment être plus à l'aise?
Ouais,
vaste question.
Plus à l'aise vraiment dans le côté stress.
Ok. Alors, on va essayer d'axer sur quelques points principaux. Le premier, c'est d'être préparé, mais pas trop. D'être préparé dans un juste milieu. C'est-à-dire que si tu es assez préparé, tu viens minimiser la zone d'inconnu de ce qui va se passer. Parce que tu connais ton message, tu sais par quoi tu vas commencer, tu connais l'ordre de tes idées. Et surtout, si tu t'es préparé à l'oral, c'est-à-dire si tu t'es entraîné assis, debout, à l'énoncer une ou deux fois, pas en étant dans le par cœur, alors ton corps, ton cerveau, ta bouche vont être habitués, tu vas gagner en fluidité et tu vas aussi gagner en confiance, puisque le jour J, tout ton être va se dire je l'ai déjà fait, donc je suis rassuré. En gros, minimiser la zone d'inconnu, c'est minimiser la zone de stress. Plus tu réduis l'inconnu, plus tu réduis le stress, selon moi. En revanche, ne pas être dans le par cœur, ça c'est un gros piège, parce que quand t'es dans le par cœur, du coup, tu peux plus compter sur toi-même. En gros, t'es dans le par cœur, tout d'un coup t'oublies une phrase, t'es foutu, parce que tu ne sais pas du tout comment te reprendre. T'as comme aucun filet de protection, parce que tu n'as pas appris à improviser. Donc ne pas être dans le par cœur, mais être un minimum préparé pour être dans le juste milieu et minimiser la zone d'inconnu. Ça, pour lutter contre le stress, c'est très bien. Deuxièmement, ça peut paraître très classique, mais on connaît les effets que la respiration a sur la sérénité ou sur le stress, dans un autre sens. Et donc surtout, faire des exercices de respiration, ça peut être de la respiration ventrale, ou tu peux appeler ça respiration abdominale aussi. Ça peut être de la cohérence cardiaque. En plus, on connaît tous ça aujourd'hui. On sait que c'est hyper efficace. On se dit, ouais, trop bien, je vais pratiquer. Tu fais 3 minutes de cohérence cardiaque avant une prise de parole. Ton cortex, donc ton cerveau intelligent, il est libéré. Ton cœur, il est régulé. En plus, tu t'es concentré sur la respiration avant. Donc, finalement, tu t'es focalisé sur quelque chose de très concret. Tu fais beaucoup plus abstraction de tes pensées parasites et de l'usine à stress. Donc, premièrement, te préparer. Deuxièmement, faire un exercice de respiration. Classique, mais il n'y a pas plus efficace. Troisièmement, dédramatiser. C'est-à-dire que intellectuellement, et on le sait, mais c'est vraiment s'atteler à le faire, dédramatiser l'importance de notre interlocuteur, l'importance de l'enjeu de la prise de parole et le niveau de risque de notre prise de parole. Parce qu'en général, le gap du stress, je crois qu'il existe entre ce que tu imagines de la dangerosité de la situation de prise de parole à venir et ce que tu crois de tes ressources face à cette situation. Ça peut être dans toutes les situations de stress d'ailleurs. Mmh. En général, tes ressources de prise de parole, tu les mets très basses. Par contre, la dangerosité de la situation, de l'audience, de leur jugement, de l'enjeu, tu les mets hyper haut. Et c'est le gap qui existe entre ces deux niveaux qui crée l'état de stress. Mmh. Donc l'idée, c'est de dédramatiser en se disant « Ok, en fait, c'est des humains. A priori, ce matin, ils ont tous bouffé des céréales, ils se sont lavé les dents. On s'en fout. Ok, ma vie ne se joue pas sur cette prise de parole, même si des fois, je comprends que si. » C'est très rare que la vie se joue sur une prise de parole. Donc, venir minimiser la dangerosité de la situation et puis prendre conscience que, en fait, parler, je sais faire. Si je bégaye, c'est pas grave. Si je suis rouge, bah, c'est OK. Ça veut dire qu'il y a du sang qui monte dans mon visage, tout va bien. J'ai le droit de respirer, etc.
Et donc, voire même dans aspects. Ce que tu dis, ça qui est drôle, c'est que je peux, c'est paradoxal, mais je peux utiliser des imperfections pour rendre ma présentation meilleure. Je pourrais rougir et faire rire la salle avec.
Du totalement.
Coup, que, du coup, il m'apprécie davantage, qu'il me trouve humain.
Tout à fait.
Ça, c'est un truc que j'adore en stratégie de manière générale. C'est les stratégies militaires, c'est beaucoup ça. C'est comment j'utilise ma faiblesse en force. Et donc, je pourrais rougir et que les gens à la fin se disent, il est trop sympa, il est vulnérable, il est humble. Et qu'au final, je sois plus apprécié que le speaker qui arrive avant ou après moi, qui peut-être sur le papier est plus parfait, mais trop Ken de Ken et Barbie, où les gens n'arrivent pas à s'identifier, quoi.
Totalement. Totalement. Et c'est ce qu'on se disait, ça rejoint ce qu'on se disait sur la singularité tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux se servir de ces imperfections-là, totalement. Et moi, je conseille toujours à mes clients ou clientes qui viennent me voir en me disant « Moi, j'ai un problème, je transpire ou je deviens très rouge quand je prends la parole. » Ok, bah très difficile à traiter, entre guillemets. Oui, en revanche, avouons-le. C'est-à-dire, on le pose sur la table. Tu prends la parole, au bout de 30 secondes, tu tapes un énorme fart, t'es tout rouge, tu transpires. Bah dis-le. Tu peux dire, pardon, j'ai un petit coup d'émotion, j'ai chaud. Et en fait, ça va se retourner en quoi? Ça va se retourner en, bah, c'est un moment important pour moi. Et juste, j'ai de l'émotion, je suis humain, je suis humaine. Je vais boire une petite gorgée d'eau, je vous reviens. Et c'est OK. Et tout le monde dans l'audience se dit, ah, waouh, moi, si j'avais été à sa place, pareil, limite, je me serais évanouie. Et t'as raison. Empathie, etc. Donc, totalement. Après, faut pas les créer de manière... Faut pas les inventer ce moment, exactement. Mmh. Mais s'en servir et les avouer, de toute façon, ça va permettre de tout de suite les évacuer. Si on est tout rouge et qu'on se dit bah « Non, je veux pas que ça se voit, je lutte, je veux pas que ça se voit », on va renforcer cette rougeur, exactement.
J'aimerais avoir ton opinion sur la prise de parole parce que j'ai l'impression qu'il y a différents styles d'orateurs, de personnes qui parlent en public et tu parlais de la vitesse. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un spectre où je vois... Brel qui me revient comme ça avec un rythme très lent et ça va être comme très profond parce qu'il y a beaucoup de silence entre chaque mot. Ils vont du coup être appuyés et du coup il y a un côté envoûtant, captivant qui absorbe. Et de l'autre côté, je sais pas qui je pourrais te trouver. Je vois aussi des prises de parole qui vont avoir un côté captivant avec beaucoup plus d'énergie, un rythme de parole beaucoup plus rapide. Et donc ça m'intéresse d'avoir ta vision parce qu'en tant qu'humain on a accès aux deux. Dans quel cas faire quoi? Clairement, j'arrive à voir que quelqu'un qui démarre lentement, accélérerait, ferait un genre de climax à la fin de sa présentation pourrait créer un effet fort émotionnellement. On a un petit peu ça avec I Have a Dream de Martin Luther King où c'est lent
redondant.
Et à un moment donné, ça s'accélère et donc ça prend. Donc peut-être première question déjà, c'est quand est-ce que, entre guillemets, accélérer et presque ne plus faire de silence? Parce qu'il y a, voilà, tout à l'heure tu parlais des silences. Il y a un pouvoir à, je vais créer une tension. Il y a trois clés, silence, clé 1. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de musique et de pouvoir quand la personne d'un coup elle
totalement.
S'arrête plus. Et elle fait plus aucune pause presque. Ou en tout cas pendant au moins une minute. Et après peut-être elle en refait une grosse et elle a pu une dernière idée. Et donc ça, j'aimerais avoir ta vision de quand est-ce que ça s'emboîte ça.
Ok. Alors pareil, il n'y a pas de vérité absolue, je pense. Ça dépend des profils, des situations, des discours, de l'audience. Mais je pense qu'on peut voir nos prises de parole comme des partitions de musique. Donc tu as raison, tu parles de Brel par exemple. Et ces partitions de musique, l'idée pour moi, c'est qu'elles ne soient pas répétitives. La musique répétitive, c'est bien, mais en fait, il y a un moment où on ne l'entend plus. Et donc, les variations sont fondamentales. En revanche, comme tu dis, quand accélérer, quand ralentir. Je pense que ça dépend de deux choses. Ça dépend de ton énergie et de la manière dont ton propos t'anime. Et l'idée, c'est pas d'accélérer pour te débarrasser du propos, absolument pas. C'est d'accélérer quand, tout d'un coup, t'as une gourmandise. Parce que si cette accélération, justement, j'essaie de me mettre en l'état là, mais elle est nourrie d'une énorme conviction, ça fonctionne parce que t'as l'émotion qui vient supporter cette accélération. Donc là, ça marche.
Et c'est presque plus l'émotion que tu transmets que potentiellement le fond de tes idées. C'est
totalement.
Ça
en tout cas, c'est l'émotion qui va pousser le message. Et c'est pour ça que le message, il va être audible et à 100% reçu, même s'il est rapide, tu vois, parce que t'es animé par ce que tu dis. En revanche, même dans ces moments-là, justement, les ruptures de rythme, les suspensions, les silences, parce qu'on a accéléré, parce qu'on en a mis beaucoup en termes d'énergie, ça va être nécessaire pour respirer, pour pas être en apnée. Parce que si toi, orateur, t'es en apnée, tu mets la personne qui t'écoute en apnée, déjà. Mais l'idée, c'est de réussir à la transporter avec le rythme, mais qu'elle te suive et donc ne pas la perdre. Et ça doit être ça, le point fondamental dans ton débit. T'accélères, tu ralentis, partition de musique, faut que ce soit varié, mais cohérent. Mais surtout, ne jamais perdre ton auditoire. Si tu sens qu'en fait, toi, t'es un véhicule, ils sont dans ton véhicule quand tu parles, mais que tu les lâches, quoi, qu'ils sortent de la bagnole parce que tu vas trop vite, bah tu les as perdus. Donc toujours vérifier quand même, justement, peut-être avec des silences, peut-être avec du contact visuel, qu'ils sont toujours là et qu'ils t'écoutent.
Super clair. Autour de ça, ce qui m'intéresse de creuser, de clarifier avec encore une fois ta vision, c'est, tu disais tout à l'heure, j'ai tendance en interview, toi, à plutôt parler vite.
Ouais.
Je pense que de base, par exemple, je vais avoir tendance à, sans dire parler extrêmement vite, à parler en tout cas plus vite que d'autres personnes que je peux voir. Comment tu poses le curseur entre, bah non, en fait, qui je suis, c'est quelqu'un qui parle vite, et donc ma variation, elle va être de là à là. Pour une autre personne, elle est d'ici, ici. Mais dans quelle mesure, c'est pas en fait simplement juste un conditionnement et je peux pas m'entraîner à descendre, vraiment ralentir.
Je suis d'accord.
Et je te pose la question parce que j'ai ce dilemme. Tu peux faire, même si je fais une vidéo face cam de une minute sur les réseaux, dans tous les cas, je vais varier, pour reprendre ton point. Mais je peux varier entre là, ou ici, ici, ou ici, ici. Je peux parler super vite. Et t'as des formats sur Internet qui vont marcher parce que ça bombarde. Et d'autres où la personne, elle va vraiment prendre le temps. On sait rien, elle prend son téléphone et il y a une chose que les gens réalisent pas en ce qui concerne vraiment la confiance en soi. Et ça, j'ai tendance à peu le faire, par exemple, ce type de rythme qui, je vois, il marche. Et comment t'arrives à savoir quand est-ce que je suis un personnage et quand est-ce que je suis moi-même simplement avec des techniques?
La meilleure personne qui pourrait le savoir, c'est toi, déjà.
Okay.
Même si mon regard extérieur, en tant que miroir, peut compter, toi, tu peux le sentir en termes d'énergie, en fait. Parce qu'on parle beaucoup du débit de parole, mais ton débit, il est lié à ton énergie interne. Ton débit de parole, en fait, c'est l'expression de ton énergie, de la manière dont ça circule. Bon, c'est un peu abstrait, mais tu vois ce que je veux dire. Et je pense que toi, tu le sens. Tu le sens si t'es dans le bon rythme ou pas. D'une, parce que tu t'écoutes, est-ce que ton expression, elle est en phase avec ton énergie? Et de deux, quand c'est en présentiel, parce que tu peux sentir si la personne, elle te suit ou pas. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire deux choses. D'une, si toi, tu sais que ton débit de parole et donc ton énergie vocale varie de là à là, bah, c'est pas la peine d'aller plus haut ou d'aller plus bas, en fait. C'est toi, c'est qui tu es. Et comme ce qu'on se disait au début, bah, ta singularité, elle se situe là. Et y a pas de raison d'aller plus lentement ou plus rapidement, à partir du moment où t'es audible dans cette jauge-là, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, le débit de parole n'est pas du tout le même quand t'es justement face cam en vidéo ou dans un moment en présentiel. Dans un moment en présentiel, tu peux beaucoup plus te permettre de ralentir, de faire des silences, parce que les gens, ils sont là, ils sont présents, tu le sais. A priori, là, tu vas pas te lever en deux secondes et sortir de la pièce si je te parle. A priori. Alors qu'on sait très bien sur nos téléphones, a priori, si j'ai une vidéo et qu'il y a un silence de plus de trois secondes, je vais pas la regarder. Parce qu'on fonctionne comme ça, c'est notre énergie passive quand on regarde des vidéos. Sauf si vraiment on se cale devant une formation en ligne, etc. Donc je pense que le débit de parole n'est pas le même quand on est en présence de quelqu'un qu'on tient par une attention concrète, physique, que quand c'est face à la caméra où on ne sait pas dans quelle situation les gens vont nous regarder. Mais je pense qu'il faut respecter notre débit de parole qui est le reflet de notre énergie interne, qui est le reflet de notre singularité, si on en revient au début.
Là, j'ai une conférence samedi. Comment tu me conseilles de structurer une intervention? Elle va durer, je crois, 45 minutes.
C'est long. Déjà, désolé. Après, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'apports.
pour moi, c'est pas si long parce que vu que je fais des, ouais, des deux jours, trois jours, ça va. Mm. C'est paradoxalement court. Mais,
okay,
mais disons que oui. Donc, comment ton avis? C'est quoi que tu me conseilles pour bien structurer ces 45 minutes?
Ok. Alors après, ça dépend de ton audience. Est-ce qu'elle est déjà acquise?
Donc
l'objectif de ton audience?
C'est pas mon audience. Je suis intervenant dans un événement qui, je pense, à 30-40% me connaît.
D'accord.
Voilà.
Ok. Alors moi, j'ai toujours tendance à conseiller d'avoir une accroche forte, qui est une accroche qui ne te concerne pas toi qui parle, mais qui est une accroche qui va venir capter l'attention des gens qui sont là. Donc tout de suite de leur parler d'eux, en fait, même si tu ne sais pas qui est qui exactement, il faut tout de suite qu'ils se sentent happés, enfin pris par le col, sans agressivité aucune. Mm-hmm. Si dans les 10 premières secondes de ton intervention, ils ne sont pas montés, encore une fois, dans ton véhicule, ils ne vont pas monter après. Toi, ton train, il va partir. Les 10 premières secondes, elles sont fondamentales. Donc avoir une accroche forte, soit émotionnelle, soit storytelling, soit même une question qui les fait réagir, soit un constat, mais commun, dont on est tous conscients, mais quelque chose qui vient réunir et qui vient les impliquer, tout de suite.
Avant de dire bonjour?
Ouais, totalement. Après, ça dépend des identités de chacun. Il y a des personnes qui ont envie de dire bonjour, je suis telle personne, etc. Si la personne est plus à l'aise comme ça, c'est très important que l'orateur, l'oratrice soit confortable, mais je pense que ce que les gens ont envie de savoir, c'est pas qui tu es, mais c'est ce que tu vas leur apporter tout de suite.
Donc, tu aurais tendance de base, sauf si la personne vraiment y est attachée, à éliminer le « salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là, je suis content ».
Totalement. Totalement, parce que ces 10 premières secondes, elles sont extrêmement précieuses.
Elles sont centrées sur moi.
Et enfin, là, elles seraient centrées sur toi. Et que tu sois content, c'est bien. Mais ils s'en foutent, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être contents, eux. Non, mais c'est vrai.
Oui,
après,
sûr,
c'est un peu cliché. On le voit beaucoup, l'orateur qui a une énorme accroche et au bout d'une minute dit « En fait, je suis Camille Valcan » et hein, parce que ça y est, la personne a capté l'attention et ensuite elle peut se présenter. Mais au final, ça fonctionne comme ça.
Oui, d'abord j'obtiens ton attention.
Exactement.
Parce que je t'ai accroché et je la conserve parce que tu vois, entre guillemets, ce que tu as gagné.
Exactement.
Et après, tu es intéressé par moi, tu peux te dire qui je suis.
Totalement. J'aurais tendance à te conseiller de commencer par une accroche de ce type-là. Accroche qui serait en lien avec un aspect émotionnel, ça ne veut pas dire que tu vas faire pleurer tout le monde, mais qui ait une teinte émotionnelle. Si tu es dans une accroche hyper rationnelle ou pragmatique, tu vas moins aller choper les gens.
Donc là, encore une fois, je n'ai pas pris le temps de regarder exactement ce que mm-hmm. j'avais à faire, mais je crois que c'est relativement des personnes qui veulent entreprendre. Mm-hmm. C'est ça qui n'est pas encore clair pour moi, il faut que je regarde si c'est des gens qui veulent entreprendre, sont au démarrage de leur projet okay. ou ont déjà des business qui fonctionnent et veulent les faire développer. Donc là, ce que tu es en train de dire par approche rationnelle, typiquement arriver en disant « La question que je me suis posée, c'est comment on fait pour atteindre un business à 1 million d'euros en le moins de temps possible ?»
Ok.
J'en sais rien, est-ce que c'est rationnel?
C'est ce que tu as prévu ou pas?
Non, pas du tout.
Okay.
Non, ça c'est pas rationnel.
Et c'est intéressant, parce qu'en fait, tu parles de toi, mais, et c'est contradictoire avec ce que je t'ai proposé avant, mais tu parles de toi, mais tu leur parles à eux aussi, parce que c'est probablement la question qu'ils se posent. Donc ça fonctionne. Et non, pour moi, on est sur l'émotionnel, parce qu'en fait, comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la thune, c'est de l'émotion, c'est de l'énergie.
Ouais.
Donc, tu parles d'argent, tu poses une question, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne accroche. Mais tu pourrais aussi, par exemple, si c'est des personnes qui veulent entreprendre, toi, t'es entrepreneur, un entrepreneur à succès qui a réussi, donc, sans partir de toi, mais en partant d'eux, avoir une accroche, par exemple, qui évoque, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas les chiffres et je sais même pas si c'est vrai, mais à quel point en France, les gens qui entreprennent sont en meilleure santé. Je dis n'importe quoi. Mais peut-être qu'en fait, entreprendre, c'est un gage de bien-être. Parce qu'en fait, on s'épanouit dans le fait d'entreprendre. C'est vrai, enfin, pardon, mais bon, ça me concerne personnellement. Mais être à mon compte et entreprendre, c'est bien meilleur pour ma santé que d'être salarié. Et donc, entreprendre est un gage de bonne santé. Et donc, finalement, faire le lien entre l'entrepreneuriat et la longévité de leur vie, dès le démarrage, je pense, ça peut capter leur attention.
Mais à l'inverse, je pense qu'il y a une corrélation entre les crises cardiaques et l'entrepreneuriat.
Ah, intéressant.
Est-ce que arriver avec une mauvaise nouvelle, c'est à déconseiller?
Bah, ça dépend de ton objectif de prise de parole.
Si mon thème, c'est le stress, par exemple, la gestion du stress.
Par exemple, mais si ton but, c'est de les booster à entreprendre, tu vas pas leur dire qu'entreprendre, c'est synonyme de mort. Mmh. Parce que dans ces cas-là, je pense que tu n'accèdes pas à l'objectif de ta prise de parole. Par contre, effectivement, si tu fais une prise de parole sur le stress et que tu commences par ça, oui, pourquoi pas.
Okay.
En fait, à partir du moment où on est dans l'émotionnel, que ce soit alarmiste, que ce soit que ça donne envie, que ce soit quelque chose, voilà, ce qu'on appelle des chiffres chauds, des chiffres émotionnels, ça fonctionne très bien. Sans être trop dans le cliché de commencer ces prises de parole. Et désolé si tu le fais, je le fais aussi souvent, mais par... alors, parmi vous, combien de personnes et hop, ils lèvent tous la main. Et c'est très bien parce que ça implique, c'est une question et tout le monde s'engage tout de suite dans la conférence. Mais c'est très fait, quoi. On le voit beaucoup. Donc moi, j'aurais tendance à essayer d'avoir un début très accrocheur, très punchy, axé sur eux, mais qui ne soit pas redondant de ce qu'on entend quand même beaucoup.
Ok. Et quand tu disais une histoire, dans le cadre d'une accroche, une histoire qui peut durer combien de temps au maximum, tu penses, sur une intervention de 45 minutes?
Je ne sais pas, je dirais une minute trente. Ouais, bon, donc, si ton histoire, elle est bien.
On n'est pas sur une grosse histoire de 4 minutes, quoi. Selon toi, en tout cas.
Si tu as une histoire extraordinaire, pourquoi pas? Mais okay. Non, je pense qu'il faut rapidement que cette histoire, elle soit au service en fait de ta conférence, de leur message et de leur raison, de la raison de leur présence.
Mais une histoire pourrait être, j'en sais rien. La semaine dernière, j'ai vu tel documentaire sur Beckham et ça m'a créé un déclic sur tel thème par rapport à vous. Bref, je ne sais pas comment l'articuler, mais ça pourrait être ça, par exemple, une histoire, quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps et qui est en lien avec ce que je vais leur partager.
Ouais, totalement. Ok. Ouais, c'est possible.
Ok. Et quand tu dis soulever des questions. C'est des questions du type comment faire X.
Tu veux dire quand je
accroche pour
je
l'accroche.
Conseille de commencer par une question.
Ouais, c'est un pourquoi tel truc.
Non, en général, c'est des questions fermées. C'est des questions où les gens vont pas répondre. Si tu veux, c'est des questions qui parmi vous a déjà. C'est des questions où ils vont en un quart de seconde y répondre. C'est pas pour enclencher une grande pensée. C'est pas pour qu'ils décrochent du fil conducteur de ta conférence. C'est pour qu'à l'inverse, bam bam, ils répondent dans leur tête. A priori, ils vont tous avoir la même réponse. Et qu'en fait, tu les embarques avec ça après. Donc, c'est une question fermée plutôt.
Donc, du type, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre telle chose?
Exactement.
Et dans ces cas-là, tu enchaînerais plusieurs?
Tu peux enchaîner un triptyque de questions, pas plus, parce qu'ensuite, plus de 3 questions, ça se noie. Mais 3 questions, c'est bien, parce que tu as une surenchère, tu as une redondance, et l'aspect, le triptyque fonctionne très bien en termes de rythme aussi. Ouais.
Ok.
Tout à fait.
Et donc, ça, sur le côté plutôt comment, c'était pas dans le sens. De les faire réfléchir, mais je crois que c'est Simon Sinek qui démarre avec ça sur, je sais plus comment il le formule, mais en gros, il commence avec qu'est-ce qui fait que les leaders inspirent l'action, un truc comme ça. Donc, c'est pas une question auquel le spectateur va réfléchir, mais c'est qu'il va comprendre, qu'il va avoir la réponse à cette intrigue.
C'est ça, exactement. C'est un peu comme annoncer le titre d'une conférence dans ces cas-là.
Oui.
C'est dire, voilà vers quoi on va. Et c'est bien, parce que c'est une question qui va venir chapeauter un peu toute la prise de parole. Les gens l'entendent au début, donc ils comprennent la raison de leur présence.
Ok.
Ouais, donc, pourquoi pas.
Donc ça, c'est accroche. Ensuite.
Bonne accroche. Ensuite, il y a pas de. T'as plein de structures différentes. Pour moi, l'idée.
Une que t'aimes bien, par exemple.
Ça dépend vraiment du sujet, etc. Mais en gros, juste pour moi, ce qui est important, c'est l'accroche et la conclusion. Déjà, c'est fondamental. L'accroche, c'est ce qu'ils entendent en premier. La conclusion, c'est le dernier truc qu'ils mettent dans leur panier, en fait. Donc c'est ce qui va leur rester véritablement. L'accroche, pour moi, ça doit être presque un passage à l'action. Tu leur proposes presque quelque chose. Ils doivent avoir envie de se lever et d'y aller.
La conclusion, tu veux dire?
La conclusion, pardon. J'ai dit l'accroche?
Oui.
La conclusion, c'est presque un passage à l'action. Et elle doit venir non pas fermer quelque chose, mais ouvrir d'autres perspectives pour eux. Ensuite, dans le schéma de ta prise de parole, ça dépend de plein de choses. Moi, j'aurais tendance à avoir au début un grand pourquoi, un grand enjeu, c'est-à-dire poser soit une douleur, une crainte, une envie, mais qui est un pourquoi qui soit posé au début de la conférence.
Pourquoi ce qu'on va voir est important, c'est ça?
Non. En fait, le pourquoi, c'est en gros la question à laquelle ce dont tu vas parler va répondre. Comme ça, le sujet dont tu vas parler, ce que tu vas apporter comme contenu, va arriver comme une évidence et comme une réponse à un problème.
Ok, tu peux l'illustrer?
Je l'illustre en disant, tu vois, on a parlé de la peur tout à l'heure de prendre la parole en public. Je pourrais commencer ma conférence en disant, dans cette salle, vous êtes 100 aujourd'hui. Et parmi vous, 80 personnes préféraient mourir plutôt qu'être à ma place en train de prendre la parole devant vous. C'est normal, je vous rassure, c'est très simple. Prendre la parole en public, c'est la peur numéro 1 au monde devant la peur des serpents et la peur de mourir. Okay, donc accroche, je fais très caricatural, mais voilà. Et pourquoi j'ai posé ce problème-là? C'est le gros enjeu, c'est le pourquoi. C'est parce qu'ensuite, moi, ce que je vais amener dans la conférence, ça va être, en gros, le « mais je vous rassure, la prise de parole en public, ça se travaille, ça s'améliore, et ensemble, on va voir les clés fondamentales pour devenir un orateur impactant et qui prend du plaisir. Okay. » Et en fait, solutions ou mes apports après prennent de l'importance et sont précieux. Parce qu'au début, je leur ai fait comprendre, non pas qu'ils ont un gros problème, hein. Là, je pars d'un état problème, mais c'est pas forcément ça, mais qu'il y a quelque chose à régler, en gros.
Donc c'est pourquoi changer ?
Pourquoi changer, exactement. Et c'est en gros venir mettre le doigt au début sur ce qui compte, sur ce qui fait mal et ce que tu vas, entre guillemets, résoudre.
Et donc prenons l'exemple, encore une fois, je ne sais pas si c'est ça, mais ouais. d'entrepreneur qui se serait déjà lancé, donc c'est pas un sujet de se lancer,
okay.
Et c'est au tour de développer leur activité.
Ok.
De la faire passer à un autre niveau.
C'est quoi leur enjeu ? C'est qu'ils stagnent, c'est que...
Prenons l'idée qu'ils stagnent.
Ok. Bah, l'idée, justement, ça va être de venir mettre en lumière au début l'inconfort, l'ennui, la médiocrité sans jugement aucun.
La frustration,
exactement. Voir le déclin, voir... Bah, c'est vrai qu'une entreprise qui ne fonctionne pas au bout de 3 ans, etc. Donc, c'est... Tu peux même être alarmiste à ce moment-là, justement,
oui,
comme
exemple,
on le disait tout à l'heure.
Je crois que c'est... Je me souviens plus de la stat, mais en tout cas, c'est moins de 4 sur 1000 qui passent
le cap.
Qui pèsent du million d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc ça veut dire que t'en as 996 sur 1000 qui sont mortes après 3 ans, un truc comme ça. Ou
voilà,
après 5 ans,
je sais par plus. Exemple, tu pourrais exprimer dans ton accroche ce gros enjeu et en disant, bah, vous, si vous êtes là, c'est que vous ne souhaitez pas faire partie de ces.
996.
De ces bateaux, ces épaves, effectivement. Et donc ensuite, ce que tu vas apporter, bah, ça va leur permettre. De répondre à finalement cette finalité qu'ils veulent éviter.
Yes, parfait. Ok, donc accroche, pourquoi ?
Et ta réponse, en fait. Okay. Là, on est sur quelque chose d'hyper binaire,
ouais,
qui fonctionne.
Au niveau de la réponse, toi, par exemple, les TED, ils sont beaucoup structurés sous forme de 3 clés, quasiment tous. Enfin, la majorité, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces structures-là ? Est-ce que tu te dis, bah non, par exemple, sur 45 minutes, j'ai le temps de faire plus que 3 et je peux faire 5 ? Tu te dis quoi, toi ?
Non, je pense qu'il vaut mieux pas trop en faire. Il vaut mieux en dire moins, mais le dire mieux, selon moi. C'est vraiment mon leitmotiv. Et que tu saches que, certes, t'as 45 minutes, mais si tu sais que tu dois dire énormément de choses, justement, si on en revient au débit de parole, tu vas foncer, tu vas accélérer, tu sais que t'as des tartines de trucs. Alors que si t'as 3 points, déjà, dans l'esprit des gens, ça va être très clair. A priori, ils vont les retenir. C'est comme si tu leur mettais 3 petits drapeaux en tête et ils vont s'en souvenir. Et en plus, c'est un rythme en 3 temps qui convient et qui fonctionne à notre cerveau. Et juste une chose, si tu fais une conférence de 45 minutes, tu le sais, les gens, ils vont pas tout retenir. Ils ont un temps de concentration très limité. Donc, il vaut mieux prendre le temps de mettre l'accent sur 3 points qu'ils vont retenir probablement, parce qu'il y en aura 3, que sur 7 ou 8 qui finalement vont se mélanger, vont être confus et vont faire que ça va pas être clair et qu'ils vont se perdre. On a toujours tendance à vouloir en dire beaucoup, faire plein de points, montrer des visuels hyper, hyper chargés et tout. On sait que non, en fait. Plus c'est simple, plus c'est audible, mieux je le retiens. Basta, sans être forcément hyper scolaire, mais simple.
Ok, donc, et après la conclusion.
Et après la conclusion.
Je pense que plein de gens travaillent l'accroche, enfin... Plein de gens ne travaillent pas, mais je pense que parmi les gens qui travaillent leur présentation, ils se concentrent sur l'accroche parce qu'il y a ce côté stress d'arriver.
Ouais.
Et donc, je veux être préparé, je veux savoir ce que je vais dire. Je pense que la conclusion, elle est plus souvent pas considérée.
Mm-hmm.
Enfin, je sais pas si c'est ce que t'observes.
Si, je suis d'accord.
Et donc, c'est quoi qui fait une bonne conclusion ?
Alors, une bonne conclusion, moi, je dirais que tu peux, c'est basique, mais récapituler, par exemple, tes 3 points, mais juste en 3 mots ou en 3 phrases. Pour venir au cas où mettre le dernier petit coup de marteau sur tes 3 idées, pour être sûr qu'ils repartent bien avec. Et ensuite, évoquer, comme on l'a dit tout à l'heure, une ouverture, une ambition plus lointaine et montrer à quel point ce que tu viens d'apporter pendant 3 quarts d'heure, c'est important parce qu'ils l'ont reçu, mais c'est important parce que ça peut aussi être optimisé demain ou dans un futur un peu plus lointain et que il y a une, comment dirais-je, que ça peut faire des petits, quoi. C'est, t'as une ambition et une perspective plus lointaine. Ouvrir des portes, leur donner envie d'aller se renseigner ou d'aller agir encore plus loin sur ce que tu leur as apporté. Et qu'en gros, ils sortent de la conférence, que ce soit pas la fin, mais que ce soit le début d'autre chose.
Et tu utilises des formules rhétoriques?
Oui, c'est possible.
Le fait de répéter 3 fois une phrase qui démarre avec le même mot, par exemple.
Ouais, ça marche bien.
La version Churchill, je crois que c'est sur la plage, où je sais plus ce qu'il dit exactement, il répète plusieurs fois comme ça. Sur la plage, nous irons, machin, machin. Sur la plage, je sais pas.
Totalement, totalement. En fait, ça hypnotise le cerveau de ton interlocuteur. Et si tu le dis 3 fois, bah, t'es sûr qu'il s'en souvienne.
C'est un peu le moi président de Hollande.
De Hollande, exactement. Et ça a marché, en fait, puisqu'il ça, je crois que c'est la fois où il a été président, on est d'accord, je dis pas
je
de
pense
bêtises.
Que c'est
hein.
ça, oui.
Ouais, c'est ça. Non, c'est certain même. Et en fait, tu viens ancrer ça comme une réalité, quoi, comme une croyance, tu viens le marquer au fer rouge dans le cerveau de ton interlocuteur. A priori, si tu dis pas trop de conneries, il va y croire, il va le retenir. Donc oui. Et surtout, pardon, pour soigner la conclusion, c'est éviter de tomber dans les écueils de la personne qui termine en disant, voilà. Tu sais, c'est pas ce que tu vas faire, mais la majorité des personnes, même après une bonne conférence, voilà. Non, tu termines pas en disant voilà, tu termines en ayant une énorme phrase qui claque bien fort parce que tu l'as prévu. Pas forcément des trucs, une citation ou un truc incroyable, mais en fait, l'avoir prévu. C'est la dernière pierre que tu poses sur ton édifice. Si elle se pète la gueule, t'as tout qui s'écroule derrière. Donc c'est dommage.
Très intéressant. Alors, on va regarder quelques personnes s'exprimer. L'idée, donc, c'est de, que tu puisses noter toutes les choses que tu observes.
Okay.
Que ce soit des choses qui sont positives, entre guillemets, selon toi, ou des choses qui peut-être le seraient moins. Toute observation.
Très bien. Et je me permets de préciser que ce ne sont pas des vérités absolues.
Oui,
c'est ce que je pense moins, hein, vraiment.
Mais d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant avec la prise de parole, c'est que j'ai l'impression presque que les plus grands orateurs, ils enfreignent les règles de la prise de parole. Et ça, dans une certaine mesure, pas toutes les règles, pas toutes d'un coup, mais je pense qu'on pourrait prendre plein d'orateurs et on pourrait se dire, pourtant il est un peu monocorde et ça, il a quelque chose, il a tellement d'autres choses.
Totalement.
J'en sais rien, enfin j'imagine qu'on pourrait facilement se dire, cette personne-là, elle utilise pas ses mains et pour autant, j'en sais rien, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Paul Mirabel, l'humoriste, il utilise tellement le cliché d'être le mec mal dans sa peau que ça en devient hyper captivant, par exemple. Il joue.
Totalement.
Mais il
y a aussi des écueils à ça, mais je suis totalement d'accord. Oui. À la base, tu le kiffes et tu peux regarder pendant deux heures parce que c'est un piqué et qui te fait quand même vachement rire et tu comprends pas parce qu'il se passe rien sur lui et tout ce qui sort de sa bouche est drôle. Donc oui, je suis d'accord.
Après, c'est pour le coup, le texte et la fluctuation de la voix est très travaillé.
Ouais.
Et c'est le contraste d'ailleurs qui, je pense, marche bien entre quelqu'un qui, si tu regardes là, fait à l'aise. Et tout le reste du corps ne l'est pas.
Exactement. Et puis de telles histoires ou de telles vulgarités qui sortent de sa bouche alors qu'à la base, on se dit qu'il est coincé.
C'est
le contraste est marrant.
Donc, j'ai choisi de commencer avec Bernard Tapie, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'a mis un gros vent parce que je lui ai proposé une interview il y a 13-14 ans.
C'est vrai?
Ouais.
OK.
J'avais
envie. Il t'a dit non?
Il m'a dit non. Il m'a dit trois fois non parce que je me suis mis trois fois devant lui.
Tu vois, des fois, même répéter trois fois les choses, ça ne sert à rien.
Non, en tout cas, il m'avait marqué. À l'époque, je m'étais dit, je vais interviewer quelqu'un qui est un peu un symbole de la confiance.
Ouais.
Et on m'avait dit, Bernard Tapie, ça peut être pas mal. Et j'étais parti à Paris, j'ai habité à Lyon pour le rencontrer.
Bernard, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre de l'opération Tous Amis avec Sarkozy. Où nous recevons des amis de gauche de Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, Dominique Farrugia. La semaine prochaine, Éric Besson.
J'apprends deux choses ce soir. Un, je suis de gauche. Deux, je suis pote avec Sarkozy.
Ouais, vous étiez au Parti radical de gauche, quand même.
Non, j'ai jamais fait partie du parti, mais je les ai soutenus beaucoup.
Ouais. Vous êtes de quoi, alors, de gauche ou de droite?
Mais je suis de nulle part. Je suis au-dessus de ça, moi.
Oui, d'accord. Bernard Tapie. Alors, Bernard, ce soir, en paix, nous parlerons de vous, la vie, l'amour, la mort, et de Oscar, la pièce que vous interprétez.
Tu me dis à quoi tu veux intervenir. Tu m'époses directement si tu veux.
Allez. En compagnie de... On a un petit peu de matière déjà. Tapie, hyper intéressant parce qu'en fait le mec n'a pas du tout une prise de parole qui est lisse et polie, on parlait de singularité, lui il laisse libre cours à sa singularité totalement, c'est ce qui a fait aussi son succès, et il est bourré de tics du visage, je sais pas si tu vois, en fait tu vois qu'il juge les questions de son interlocuteur, en fait c'est tout ce qu'on déconseillerait à un orateur. Vraiment.
Enfin, moi, il casse le lien, entre guillemets.
Exactement. Genre. Puis moi, je te dirais surtout, accueille toutes les questions sans jugement, remercie, valorise et tout. Lui, il fait l'inverse. Il fait ma gueule, il est vulgaire, qu'est-ce que c'est que c'est, j'apprends ça et tout. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on peut se reconnaître en lui, entre guillemets. On se dit qu'il est nature, qu'il est brut, ça fonctionne. Et malgré ça, alors ça, c'est assez inexplicable, en toute extériorité politique, il a un force capital sympathie.
Mais c'est fou.
C'est dingue. Il a un capital sympathie parce qu'en fait, tu te dis qu'il est brut, qu'il ne joue aucun rôle, justement. Et ça, c'est ce qu'on se disait. C'est hyper plaisant de voir quelqu'un qui, pourtant, est fortuné, a du pouvoir et médiatisé, se dire « mais là, il fait pas semblant, il est lui-même ». Et je pense que, pour le coup, lui, il est comme ça quand il est tout seul ou quand il est face à 1000 personnes. Donc, très intéressant cet aspect singulier et brut.
Vous l'avez beaucoup réécrit, ce...
Beaucoup, beaucoup, ouais. Ouais. On parle un peu de politique, on parle un peu justement des banques.
Et aussi, il a une voix extrêmement grave. Et donc, les voix graves, c'est des vibrations qui arrivent beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus puissante à l'oreille des interlocuteurs. Je ne sais pas comment te l'expliquer de manière technique, mais on le sait que les voix graves, elles font autorité, qu'elles sont entendues, etc. Et lui, il a une voix pleine de vibrations. Il y a vraiment de la matière. Sa voix, elle ne s'éparpille pas. C'est une matière vivante. Ça, ça fonctionne très bien.
Et ça m'intéresse, cette question-là, parce que moi, je peux voir que, bah, naturellement, je peux être plus ou moins grave. À quel point tu conseilles, du coup, de, entre guillemets, capitaliser dessus, s'entraîner. Okay. Je pourrais parler plus en bas, par exemple.
T'as déjà une voix assez grave, effectivement.
Mais je remarque que, justement, vu que je vais tendance à reparler vite,
ouais,
le grave, il part beaucoup plus.
Tout à fait.
Et je vais dans, je sais pas, j'arrive pas à le refaire là, mais je suis concentré dessus.
T'as vu, quand on analyse, on sait plus comment on parle.
Mais du coup, j'ai l'impression des fois de pas capitaliser sur le fait que je pourrais avoir une voix plus grave.
Ok. Après, ça se sent, les gens qui jouent de leur voix grave et qui veulent être vraiment que dans leur grave tout le temps, et c'est un petit peu surjoué. Moi, je pense que quand tu parles vite, tu as la voix moins grave parce qu'elle est moins respirée. C'est-à-dire que ta voix, elle sort sur ton souffle, sur ta respiration. Donc, en gros, mieux tu respires, mieux ta voix va sortir à son état brut et donc dans les graves pour toi. Donc, effectivement, si tu veux que ta voix, elle soit plus dans les graves, il faut que tu ralentisses et il faut que tu t'oxygènes un petit peu plus. Parce que dans ces cas-là, ton larynx, il est plus détendu, il y a plus d'air qui passe dans ta gorge et la voix, elle se crée quand l'air rencontre les cordes vocales. Et donc, ta vraie voix grave, ta voix singulière, ta signature vocale, c'est quand ton larynx est détendu et que tu as beaucoup d'air qui arrive, qu'elle va être bien portée et développée.
Et tu parles de respiration, c'est une respiration qu'on fait comment ? Avec le nez, avec la bouche ?
Ça, tu peux inspirer avec le nez ou avec la bouche, c'est à ton confort. Il ne faut pas revoir ça parce que sinon on devient un peu fou quand on commence à penser à ça. En revanche, c'est la respiration ventrale qui va t'aider à avoir le larynx et la voix bien placée.
Est-ce que la posture ?
Ouais.
Le fait que je me tienne plus ou moins droit, ou j'en sais rien, ou l'inclinaison de la tête,
oui,
ça va jouer.
Tout à fait. L'inclinaison de la tête, si tu as le menton qui est trop dans ton cou, tu vas venir obstruer ton larynx. Donc, il vaut mieux regarder devant soi, avoir le larynx dégagé.
Okay.
Et ensuite, l'idée, c'est bête, ça se joue aussi au sol, hein, d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Parce qu'en fait, même ce qui ne se voit pas s'entend. Les pieds dans le sol, c'est ton ancrage, c'est ta solidité, tes appuis, ton enracinement. Et cette solidité-là, corporelle, elle va se sentir dans ta voix aussi. Donc l'ancrage, il est important.
Okay.
Et ensuite, une verticalité, une ouverture un petit peu des épaules, de manière à pas avoir le buste complètement chargé comme ça et qui vient contracter les poumons, pour qu'en fait, tu puisses respirer, que tes poumons, ils se gorgent d'air et qu'ils puissent prendre encore plus de place, ça, puisque la respiration ventrale, je vous invite à vous renseigner, ça permet d'avoir plus de place libre pour les poumons et que les poumons puissent vraiment se gorger comme des éponges. Et ensuite, la respiration ventrale, c'est un effet catapulte qui fait que ton air, il est projeté quand tu parles. Et parce que ton air, il est projeté, ta voix, elle l'est aussi.
Elle est portée.
Et elle est bien placée. Donc, travailler la respiration ventrale pour avoir une voix mieux placée. Ton timbre de voix, tu ne peux pas le changer, sauf prise d'hormones ou opération. Mais ton timbre de voix au naturel, tu ne peux pas le changer. En revanche, tu peux modifier tout ce dont on a parlé, le débit, les variations, les silences, la respiration. Mais le timbre, c'est ta signature vocale. L'idée, c'est d'essayer de l'aimer et de l'assumer.
Oui, et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui n'ont pas des voix de base qu'on pourrait considérer
comme attractives.
Comme celle de Tapie. J'en sais pas, Lucchini.
Oui.
J'ai pas l'impression qu'il ait une voix exceptionnelle de base.
Une voix nasillarde.
Mais pour autant, t'as tout le personnage qui le rend charismatique donc quand il s'exprime, quoi.
Exactement, il en joue. Après, c'est clivant. Il y a des gens qui détestent sa manière de parler, etc.
Avec des pourcents.
Non, personne ne le connaît, ce con.
Alors, c'est au procure.
La vulgarité, ça marche.
Vous jouiez la comédie, là, ou c'était sincère ?
Un jour, un journaliste,
oui,
en Bretagne, écrit sur un type des trucs assez durs, quoi, pas très sympa. Bon, bref, le mec porte plainte en diffamation.
Ouais.
Le titre, c'était « Monsieur Machin, le tapis breton ».
Ah oui, d'accord.
Et il a été condamné, le journaliste, à 50 000 balles d'amende pour avoir été traité de tapis, qui était une injure publique. Donc, quand ton nom est prononcé et que ça génère une injure publique qui condamne le journaliste qui t'appelle comme ça, ça fait quand même quelque chose.
Ah,
quoi.
Je te confirme, ouais.
Voilà.
Deux choses. Après, là, c'est dans la construction du discours, même si lui, il ne l'avait pas prévu. Raconter une anecdote très précise, comme il le fait, ça capte l'attention et ça marche. Donc ça, c'est très bien. Et alors, je ne conseille pas d'être vulgaire, mais il s'avère que là, sa vulgarité, à lui, elle fonctionne. Ça peut déplaire, mais la vulgarité fait qu'en fait, t'es happé.
Tu captes l'attention.
Ouais, t'écoutes tout de suite. Et aussi, Tapie, je pense que ça me fait réfléchir. Je crois qu'il a très rarement été stressé de prendre la parole face à une audience. Je pense que le mec, il a un niveau d'émotion négative, en tout cas, ou qui va à l'encontre de son propos, au niveau de zéro.
Ouais, donc, il est chill, quoi.
Il est confiant.
Ben, je m'en fous.
Vous êtes extrêmement segmentant.
Mais tout le monde, toi aussi.
Ouais, non, ouais, vous quand même plus que moi.
Non, non, toi plus que moi.
Mais c'est ça. Et je pense qu'il y a une leçon à retenir de Tapie, c'est que, et il le dit, je m'en fous. Je pense qu'il s'en fout, mais totalement du regard des autres. Alors oui, il veut plaire, il veut que ça fonctionne, etc. Mais en fait, sur le moment, la manière dont on le voit, il s'en fout. Il sait qu'il clive, mais qu'il plaît aussi beaucoup.
Et donc, dans quel cas tu conseillerais à un de tes clients d'aller vers ça?
D'aller vers du Tapie, jamais. Non, c'est pas ça.
D'aller
c'est
vers du côté un peu plus clivant, un peu plus pouvoir provoquer.
Si c'est sa personnalité, oui.
Mais si pas le... si ça l'est pas de base.
Non, parce que si la personne n'est pas en phase ou à l'aise avec, avec cet aspirant dedans, ça va être pire que tout, en fait. Ça,
elle va mal le faire.
Totalement. On se disait tout à l'heure être singulier. Si tu joues un rôle et tu dis « vas-y, je vais mettre un peu de Tapie là, dans ma prise de parole », non.
Alors. C'est un homme engagé. Bah tiens, on va avoir une autre plus tard, je crois.
Mais n'empêche...
Ouais.
Et c'était quoi le thème? C'était de leur dire, bon, vous n'avez peut-être pas eu le bol quand vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais vous n'êtes pas pour autant éliminé de la course. La course, c'est quoi? L'ambition, c'est quoi? C'est pas de faire.
Là, si on est plus sur la fluctuation de la voix, tu notes quoi, par exemple?
Il a la voix moins grave.
Oui, bah, d'ailleurs, je pense que c'est aussi son état de santé là, qui
l'impacte. Oui, tout à fait. Mais même, il n'est pas positionné de la même manière et ce n'est pas le même type de plateau. Déjà, il n'est pas avec Ardisson. Avec Ardisson, tu sais que tu as beaucoup de punchline, de ping-pong, tu peux te permettre d'être vulgaire. Là, il n'est pas sapé de la même manière et il est installé, il est beaucoup moins vautré dans son fauteuil, il est beaucoup moins provoque. Là, il est plus classique, tu vois, quand même.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Pour autant, il a une bonne gestuelle, la construction de son message est très claire, tu sens que c'est facile pour lui, il regarde son interlocuteur, il est toujours très bon. Mais il est moins à un extrême, je trouve.
Et dans la modulation de, la, de sa voix, tu notes quoi?
35 ans, sur la chaîne numéro 1, on fait une émission qui s'appelle Ambition, qui fait entre 12 et 15 millions de téléspectateurs. Il y avait que 3 chaînes. Mais n'empêche, et c'était quoi le thème? C'était de leur dire...
Ouais. Bon, alors, pour autant, il y a plein d'imperfections. Oui. On s'en fiche, il y a des etc.
Mais le, par exemple, n'empêche,
exactement,
le fait qu'il l'appuie, ça, c'est des choses sur lesquelles t'invites à bosser?
Totalement. Venir, comme une partition de musique, appuyer sur certains mots pour éviter d'être dans la monotonie, pour récupérer l'attention de ton interlocuteur, il pose des questions aussi. C'est très bien. Ça met des variations de, d'intonation qui sont très pertinentes.
Stable, être inscrit à tel ou tel... Donc, ça coûte cher. Donc, il n'y a pratiquement plus la possibilité d'être heureux sans moyens.
Bon, il est moins bon qu'avant, moi, je trouve, quand même. C'est-à-dire, tu sens, il va moins au bout de ses phrases.
Oui, il est plus fatigué, là.
Ouais, mais ça, évidemment, je reproche à personne. Mais c'est moins un boxeur des mots, quoi.
Ah bah tiens, on va voir... En mode interview, au meilleur de sa femme, on dirait.
Allez.
Ce que la société à Ivry faisait, tout en se faisant concurrence à eux-mêmes. Bon, tout. On ne peut pas dire tel ou tel point. Vous savez, quand, quand un pilote est mauvais, il passe mal ses vitesses, il freine au mauvais moment,
parfait,
il ne prend pas le bon volant, il débraye.
Là, tu as deux choses. D'une, métaphore. Donc, il parle du pilote, je ne sais pas à quoi il veut en venir, mais faire une métaphore, c'est bête, ça met tout de suite le cerveau de ton interlocuteur en action.
Okay.
Ça fonctionne très bien. De deux, il prend de la place, en fait.
Tu veux dire avec ses mains?
Ouais, carrément. Il prend de la place. Et on a dit tout à l'heure, prendre la parole, c'est prendre sa place, sans exagérer pour autant.
Ouais.
Là, il a une gestuelle métaphorique, une gestuelle qui vient souligner, illustrer, renforcer son propos. Et c'est super important quand on sait l'impact de ta communication non-verbale sur ton message.
Tu penses que c'est un truc qu'il a travaillé, par exemple? J'ai l'impression qu'il a un petit sourire à chaque fois, presque un petit côté malin quand il s'exprime.
Ouais.
Il ne parle pas quand il faut, il ne regarde pas s'il y a de l'huile, il ne met pas l'essence, il tombe en panne d'eau. C'est tout.
Totalement, il a son petit sourcil relevé. Ça, je pense qu'on ne peut pas le travailler, le petit sourcil. Mais le sourire, oui. Alors, lui, c'est particulier parce qu'il est assez impertinent, tu vois. Donc, on ne peut pas tout le temps l'être. Par contre, le sourire, l'ouverture du visage, tout le temps en communication. Alors, tu peux tirer la gueule 10 secondes quand tu parles.
Ouais.
Mais le côté visage ouvert, ça change toute la chaleur de ta voix, la connexion à l'autre. Et puis, c'est très important en termes d'ouverture et d'empathie. Alors, on passe à un autre registre.
Un autre registre, donc Salomé Sakier, donc plus moderne, face cam cette fois, sur les réseaux. Et donc, on va se concentrer sur sa prise de parole.
Ils oublient peut-être que le contexte socio-économique l'était également par certains aspects. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes, en temps de crise, à chaque fois, servent de variable d'ajustement économique. C'est-à-dire que ça va être les premiers qu'on ne va pas embaucher, voire les premiers qu'on va licencier. Pendant la crise du Covid, le taux de chômage a bondi de 15% okay. en 2020.
C'est hyper intéressant parce que là, justement, c'est dans le rythme actuel des vidéos, comme on le disait tout à l'heure, c'est assez rapide,
oui,
tu vois.
Pas de silence.
Exactement. Et puis, t'as un montage assez sharp. Pour autant, moi, je perds pas l'attention. Elle est très claire dans ce qu'elle dit. Je trouve que tout est hyper cadré, que ce soit son regard franc, sa gestuelle, l'aspect pédagogue, clair et concise de ce qu'elle dit. Après, on est chacun sensible ou pas à sa manière de parler. Mais alors que c'est finalement assez simple, moi je trouve que c'est très franc et très impactant.
Comment on travaille l'articulation ? Je trouve que, justement dans un exercice, moi je le vois face cam, il y a un effet bizarre, et pour le coup c'est pas le stress de la caméra, parce que j'en ai fait, je sais pas, 3000 de vidéos, je me rends pas compte, ou surtout dans un format potentiellement comme ça, où là c'est scripté, je pense qu'elle dit, c'est-à-dire
totalement.
Que ça a été écrit, ça veut pas dire qu'elle le dit au mot près, mais en tout cas c'est scripté. Moi je vois que dès que je vais être dans un truc où c'est relativement scripté ce que je vais dire, je vais avoir du mal parfois à articuler. Enfin, c'est plus difficile d'articuler dans l'expression orale des mots.
Ok.
Et elle, j'ai l'impression qu'elle articule vraiment bien.
Tout à fait, c'est hyper net.
Chez les plus jeunes, contre 11% seulement pour le reste de la population.
Et des fois, c'est con, mais là, j'arrive pas à savoir, mais il y a des mots entrepreneuriat, par exemple. Je vais le dire facilement en interview. Eh ben, je sais pas, j'ai pas la phrase, mais très souvent en face cam, je vais... Quand c'est scripté, encore une fois, quand je suis dans un flow, je ne l'ai pas, je vais raccrocher le mot entrepreneur.
Ouais, c'est drôle.
Surtout quand c'est un truc où il va avoir une forme d'énergie.
Ok.
Et que, enfin, c'est pas que le mot entrepreneur, c'est quand c'est, je ne sais pas quelle phrase.
Dans un autre flow de mots, je comprends. En fait, c'est peut-être en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand tu es en interaction avec quelqu'un, tu te permets plus d'avoir un temps vivant dans ta manière de parler. On a un style, là, quand on se parle, conversationnel. Donc, tu peux tout à fait... respirer avant ton mot, etc. Quand t'as un script et que t'es face caméra, moi je trouve ça très difficile parce que du coup t'es beaucoup plus cadré et qui dit cadre dit beaucoup de contraintes. T'es censé avoir une diction beaucoup plus propre. Face caméra, dès que tu butes sur un mot, on ne voit que ça. Donc je pense qu'il y a plus de pression. Et puis t'es dans un cadre aussi, pour le coup, tu joues un rôle face à une caméra. C'est ok, go, on tourne. T'es pas en interaction avec quelqu'un. Donc je pense que la diction, elle est plus difficile sur le plan mental à ce moment-là. Et ensuite, elle se travaille, la diction, l'articulation, mais que ce soit pour du face caméra ou de l'interview, avec plein d'exercices, comme si t'allais à la salle de CrossFit pour la bouche, en fait.
T'as c'est-à-dire,
plein d'exercices.
Exemple, le truc du stylo, par exemple.
Ouais, exactement. C'est très scolaire, mais il n'y a
t'en
rien
fait,
de
toi?
Mieux. Ah, totalement. Moi, j'en ai fait parce que j'adore scander mes propos. Je trouve ça très important d'articuler. Après.
Mais c'est quoi, par exemple, c'est quoi les deux exercices qui t'ont le plus aidé?
Bah, c'est les deux exercices les plus connus, et ils sont très connus parce qu'ils fonctionnent. Tu te mets un stylo dans la bouche, et en fait, avec le stylo dans la bouche, tu as une contrainte. Et c'est ultra délicat de se faire comprendre avec un stylo dans la bouche. Mais comme toute contrainte, ça t'oblige à aller muscler, chercher dans tes ressources, ralentir et ouvrir ta bouche, puisque le stylo fait que ça s'ouvre.
Ouais.
Et donc, tu vas soigner, ralentir, surarticuler. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape de l'exercice, t'enlèves le stylo après 2-3 minutes.
Et tu dis ce que tu veux ou tu lis un texte ?
Tu peux lire un texte, comme ça tu ne t'embêtes pas à penser à quelque chose.
Ouais.
Tu lis un texte avec le stylo. Deuxième étape, t'enlèves le stylo. Tu relis le même passage sans le stylo. Et là, ta bouche, ce qui se passe, c'est qu'elle conserve l'empreinte mémorielle du stylo et elle continue à agir comme si la contrainte était encore là. Puisque la contrainte, elle la sent encore presque.
Ouais.
Puisqu'elle a développé les bons réflexes.
Mmh.
Et ça, si tu le fais de temps en temps, sur le moyen terme, ça te permet vraiment de prendre de bonnes habitudes, de muscler et d'avoir une diction beaucoup plus claire. Premier exercice.
Et c'est quoi ? C'est 3 fois par semaine ?
Oh, une fois par semaine, ça suffit. Tu te fais 5 minutes avec une baguette ou un stylo dans la bouche une fois par semaine.
Et tu vas progresser.
Et tu vas progresser. Et ensuite, tu peux le faire aussi ponctuellement, juste avant une prise de parole. Parce qu'avant une prise de parole, tu peux avoir la mâchoire serrée, du stress... Et faire un exercice concret, déjà, ça ne te fait pas penser au stress et ça t'échauffe. La prise de parole, c'est un sport, donc tu t'échauffes.
Après, c'est le premier.
Ça, c'est le premier. Deuxième exercice, les virelangues. Les virelangues, c'est les phrases difficiles à prononcer qui font virer la langue. Tu sais, genre 16 chaises sèches que tu vas répéter 3 fois d'affilée. Si tu veux le faire, n'hésite pas.
Donc, 16 chaises sèches.
Deuxième. Il faut le dire 3 fois pour que ce soit dur.
Ah ok. 16 chaises sèches, 16 chaises sèches.
Super, t'es très fort, parfait.
En je suis
fait,
très fort, j'en sais
non,
rien.
Mais en fait, cette phrase, étant donné qu'elle est difficile, a priori, tu vas ralentir, tu vas préciser ta diction,
ouais.
Et ensuite, le reste de ce que tu vas énoncer va te paraître facile. Donc, tu cherches des virelangues sur Internet, tu t'en fais un petit medley de 10 virelangues,
okay.
Ça te fait travailler, ça t'échauffe, ça muscle, ça précise, et le stylo dans la bouche.
Et donc, tu penses que typiquement, je pense qu'elle est journaliste à la base, je ne sais pas exactement ce
oui.
qu'elle est, tu penses que c'est le genre d'exercice qu'ils font?
Je pense que c'est peut-être des personnes, parce qu'elle, elle produit énormément de contenu, qui ont suffisamment maintenant d'expérience pour que, en fait, le fait d'avoir de l'expérience suffise. Parce que je pense que le fait de pratiquer est le oui. meilleur des exercices.
Ouais.
Et qu'au final, vu qu'elle veut être précise dans ce qu'elle dit, bah, pratiquer lui permet d'avoir une bonne diction. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de journalistes. Moi, j'ai travaillé à la radio pendant un petit moment. Et t'as beaucoup de journalistes, avant de prendre l'antenne, qui s'échauffent avec un stylo dans la bouche. Hop, c'est à eux, ils l'enlèvent. Et ils ont la diction tout à fait déliée.
Super.
Aujourd'hui, les jeunes font face à des difficultés économiques qui sont inédites et qui rendent très difficile l'insertion sur le marché de l'emploi.
Comment savoir sur quel mot insister ? Moi, je pense que c'est quelque chose que je fais relativement. Mais par exemple, quelqu'un qui nous écoute, comment savoir quels sont les mots sur lesquels appuyer et jusqu'où les appuyer ? Parce qu'on peut vraiment aller trop
ouais.
loin, entre guillemets.
Ouais, ça peut être très lourd.
82, les emplois dits précaires, d'auto-entrepreneurs, de CDD, d'intérim, représentaient 17% des emplois des jeunes. Aujourd'hui, ils en représentent 52%.
Bah, c'est exactement ce qu'elle fait. Par exemple, là, elle veut valoriser des chiffres. Elle
17%.
Veut les sortir du lot. Elle appuie dessus, exactement. Donc, soit tu es préparé en amont et en gros, tu te surlignes les 4 ou 5 mots que tu veux valoriser, comme je viens de le faire,
tu
même si ça n'a pas de
fait,
sens.
Ou c'est un impro, tu penses?
Ah non, elle, je pense qu'elle a l'habitude. Elle sait qu'elle sort des chiffres, elle ne veut pas qu'ils passent inaperçus. Pour qu'un chiffre soit entendu, elle va les appuyer.
Okay.
Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus exposés que n'ont pu l'être leurs aînés à la précarité de l'emploi. Donc, dans beaucoup de cas, c'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils ont beau travailler, ils ont beau tout donner.
Là, c'est intéressant de la voir rarement à la souris.
Totalement. T'as raison. Je trouve qu'elle est assez froide en termes d'expression. Ce qui n'empêche pas à la bonne transmission de son propos. Mais tout d'un coup, quand elle sourit, c'est surprenant. Donc effectivement, ça amène une couleur en plus. C'est attractif. Et je parle pas du sourire de séduction du
ouais,
tout. Hein.
Ouais.
Mais tout de suite, dès que quelqu'un sourit, t'as envie de l'écouter quand même.
Mmh. Ils n'arrivent pas à accéder à la stabilité de l'emploi. Et parfois, ça devient éreintant à tel point que certains jeunes finissent...
Mais tu penses que là, 4 minutes 12 comme ça, est-ce que c'est pas trop... monocorde au bout d'un moment.
Si, on est sur un style ultra journalistique, elle donne beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, elle cherche pas du tout à être fun, et c'est pas le propos.
Ouais.
Donc oui, je pense que clairement, elle fait le tri, hein. Les personnes qu'elle n'intéresse pas vont partir.
Ouais. Et donc là, on va la voir en interview.
Qu'un simple ressenti, qu'il y avait bien des clichés qui étaient diffusés sur les jeunes, qu'il y avait bien un regard aussi qui pouvait être diffusé dans les médias, par la bouche aussi des politiques, qui étaient négatifs et qui, à mes yeux, devaient être déconstruits. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
C'est ce que vous avez essayé de faire. Il y a aussi une anecdote assez marquante que vous citez au début de votre livre concernant justement,
alors pas que des jeunes d'ailleurs, mais globalement des militants et militantes écologistes qui étaient globalement plutôt jeunes, qui ont décidé de bloquer cette Assemblée Générale en demandant aux actionnaires, mais arrêtez de financer des énergies fossiles qui sacrifient notre avenir. Et donc, il y a eu une espèce de friction entre, d'un côté, et c'est vrai que la scène est assez hallucinante quand vous regardez les vidéos, des personnes qui étaient globalement plus âgées.
Ouais, tu vois, je pense qu'il faut qu'elle fasse gaffe. Après, là, je ne sais pas quel est l'événement, mais c'est dense ce qu'elle dit. Elle ne fait pas du tout des phrases courtes. C'est difficilement digeste.
D'accord.
Ouais, exactement. Et encore une fois, je pense que c'est dur de rallier tout le monde, non pas à sa cause, parce que c'est pas le souci, mais à l'écoute de son propos. Je pense qu'elle, elle est vachement, et c'est ça qui est intéressant, elle est beaucoup dans le fond de ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle travaille peu sur la forme de ses prises de parole. Malgré elle, elle est écoutée, elle est entendue, elle est journaliste. Mais elle, ce qui lui importe, c'est pas du tout de faire bonne figure ou d'être entendue. C'est de dire le message qu'elle veut dire.
Ok. Là, c'était un pitch. Ah tiens, Simone Veil.
Je trouve dans cette situation d'angoisse si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale.
Donc juste, je dis, donc c'est le pitch par rapport à l'avortement. Donc.
Entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état,
tu te dis ouais. quoi pour l'instant?
Alors, moi, je trouve ce discours extraordinaire parce qu'elle a énormément de courage dans le sens où elle s'adresse principalement à des hommes qui sont devant elle dans l'Assemblée et elle parle des femmes. Et du coup, son propos est très très sur l'émotionnel, et elle a tout à fait raison. En fait, l'idée est de faire comprendre aux hommes qui sont devant elle la situation des femmes qui ne sont pas en droit d'avorter. Et je trouve qu'elle le fait très bien parce qu'elle a un ton très solennel, très grave, et pour le coup qui est à propos et qui fait qu'elle est alignée entre ce qu'elle dit et la manière dont elle le dit. Elle a un ton posé, elle fait des silences et elle se permet de prendre son temps.
Et qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer ?
Ben là, elle n'a aucune gestuelle, par exemple.
Ok.
Mais probablement parce que c'est très institutionnel, qu'elle a son papier, qu'elle lit ses notes en plus. Mais effectivement, les gestes n'existent pas du tout. Après, je pense qu'elle veut rester sobre.
Mmh. Ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse, combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
Mais du coup, tu vois, je trouve qu'elle compense beaucoup avec ses intonations, avec l'aspect déclamation du propos. Et moi, c'est vrai que ce discours, je l'ai beaucoup entendu, plus que vu, et je trouve qu'il s'écoute presque, plus qu'il ne se regarde.
Donc là, c'est parce que c'est notre projet.
C'est parce que c'est la plus mauvaise prise de parole du monde.
Tu penses ?
Non, mais presque.
Jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Ah. C'est ahurissant. Donc, hop, on met l'aspect politique à côté. Mais ça, on pourrait croire que c'est un sketch, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je vois ça, j'ai l'impression de voir un sketch des Inconnus. Et en même temps, c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire que son émotion le sert et le dessert. Il est complètement dépassé par ses émotions. C'est, on dirait, un enfant qui se met dans un état démentiel. Sa voix déraille totalement. Il a un regard de diable. Il a des gestes, mais à faire péter les murs autour de lui. Il y a un côté totalement mégalo qui transparaît de lui de par sa voix. Techniquement, il n'y a rien qui va, absolument rien. Mais ce discours, on le retient. Et surtout, les gens qui étaient d'accord avec lui se disent, bah, en fait, le mec, il est en accord avec ce qu'il dit puisque les émotions prennent le dessus. Et c'est à ce moment-là que les émotions servent ou desservent. Et là, moi, j'ai pas de réponse. Il y a une incohérence totale. Puisque ici, ces émotions le font dérailler. Mais parce qu'il déraille, on se dit, ouais, il est à fond dans son projet et OK, on va le suivre. Bon, après, on se dit qu'il a été à fond pendant 15 jours après ce discours, je pense.
Mais donc, du coup, c'est quoi la lecture sur le côté parce qu'on pourrait se dire, effectivement, ça a marché, il est à fond, la salle crie avec lui, ils sont au taquet.
Mm-mm. Bah, moi, ce que je lis, c'est que son discours n'est pas professionnel en termes de technique, que quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles, même s'il est, il a plein d'enthousiasme, il est humain, il est emballé, pour moi, c'est assez dangereux de voir quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout ses émotions comme ça. Parce que là, on parle de non-maîtrise d'émotions dans un discours, les émotions prennent le dessus. Mais si on se dit que ce mec va être à la tête de l'État, moi, je trouve que ça peut être inquiétant. Donc, j'aurais tendance à baisser totalement les curseurs de l'émotion pour ce type de discours. Ça, je trouve que ça n'a pas du tout lieu d'être.
Ok, donc toi, si tu avais été conseiller de Macron,
ouais.
Tu lui aurais dit, là, tu refais pas ça la prochaine fois.
Bah ouais, figure-toi, c'est drôle parce que j'avais envoyé un mail, je pense, 2 jours après ce discours, en essayant de rentrer en contact avec son équipe et tout, parce que je me suis dit, en fait, là, il y a le plus gros travail du monde à faire sur ce mec qui potentiellement va être président, certainement même. Et oui, il y a énormément de travail à faire. Et je m'étais dit, mais comment il travaille ? Et j'avais vu qu'il travaillait avec un chanteur lyrique. Et je me suis dit, ouais, mais ça ne se voit pas du tout. Donc oui, un gros travail de respiration, de voix, de gestion des émotions.
Est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait le trouver où tu dis qu'il est meilleur ?
Mm-hmm. Oui, mais là, il est pas mal dense.
Des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent. Parlement européen, par parenthèse. Et qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, comme de l'aide à l'Ukraine, d'ailleurs, à laquelle vous êtes aussi opposé, l'aide financière.
C'est faux.
Non, c'est un fait, Mme Le Pen.
C'est faux.
Ce sont les votes. Et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues.
C'est intéressant. Après, là, il débat face à une personne, ce qui n'a rien à voir que de faire un meeting. À ce moment-là, il est président en place, hein, déjà, je crois.
C'est le deuxième fois.
Voilà, OK. Il est totalement en maîtrise, voire il a l'impression de s'en foutre un petit peu. Mais en fait, ce n'est pas qu'il s'en fout de ce moment-là. C'est qu'il montre à son interlocutrice, Marine Le Pen...
Je m'en fous de toi.
Exactement. Qu'elle ne mérite pas ou qu'elle n'a pas... suffisamment d'importance ou que ses idées sont tellement pas à la hauteur des siennes qu'elles ne méritent pas son regard, son attention, son respect. Et vraiment, il lui parle comme un animal qu'il ne respecte pas.
Ok.
Il ne la regarde pas, il est tout voûté, il y met pas du sien, tu sens que, ouais, il montre qu'il s'en fout un petit peu.
Et tu penses que c'est stratégiquement une bonne stratégie ?
Ouais, totalement. Totalement, parce qu'en fait, il la dénigre et dans son regard à lui, pour ceux qui se réfèrent à Emmanuel Macron, eh ben, tout de suite, on adopte son point de vue à lui. En gros, lui, c'est notre projecteur. Là où il regarde, on va regarder. Si lui, il regarde Marine Le Pen, nous, on va la regarder, on va lui donner de l'importance. Si il regarde la table, eh ben, nous-mêmes, on se dit, OK, elle n'a pas d'importance. Donc oui, il aiguille, en fait, il pilote notre propre regard.
OK.
Ne pas vous décevoir.
Ça date de quand, ça ? 7 ans.
Être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez.
T'en penses quoi, ça ?
Ça, je pense que c'est le soir de son élection face à la pyramide, il me semble. Je pense qu'il est plus posé. Tu sens que sa voix, elle est beaucoup plus intéressante. Elle est pleine, elle est ronde. Et en revanche, on voit pas ses mains. Bon, il fait un geste à un moment. Mais quand t'as un pupitre ou une table, moi, je conseille toujours de ne jamais cacher ses mains.
De sortir. Mets,
ouais, tout le temps. Et aussi, pardon, je me permets, Emmanuel Macron, il a une prononciation des S qui est particulière. Avec ses dents, moi j'ai des S aussi qui sont un peu spéciaux, chacun son style. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça prouve qu'une particularité de diction, une particularité de langage n'enlève en rien tes possibilités, que ce soit de carrière, de charisme ou de discours. Et que, et ça c'est important de le dire, quand on chuinte ou quand on zozote, c'est pas grave en fait. Ça fait pas de toi une personne moins bonne, du moment que tu es audible.
On avait dit aussi, moi président, c'est ça qu'on voulait.
Des risques.
Ce qui est fascinant pour moi avec Hollande, c'est que de base, à l'époque, je me disais, c'est l'anti-cliché d'orateur.
Exactement.
Que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle.
Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est fasciné par la rhétorique. Et comment ça se fait qu'à ce stade de niveau politique, il ne s'exprime pas mieux, entre guillemets ?
Ouais.
Je crois que le reste va être intéressant. Hein.
Bien sûr.
Le moi président, etc. J'ai vu une grosse transformation dans sa. Enfin, quand il a gagné, je me suis dit waouh, il a bossé parce que c'est assez
totalement.
Fascinant.
Après, la rhétorique, c'est le fond. C'est pas la forme de ton propos. La rhétorique, c'est des figures de style, des arguments, etc. Et il est plutôt très bon.
Oui, il est
dans le
dire,
fond et dans la rhétorique. Totalement. Après, t'as raison. C'est pardon, sans jugement de valeur. Tu te dis waouh, oh là là, il me provoque beaucoup d'empathie, j'ai envie de le soutenir, il va pas y arriver le pauvre. Puis le mec est président. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, et c'est ce sur quoi il a joué, hein, le président normal, etc. Tu te reconnais dans ce type de personne, et c'est ce qui fonctionne, et c'est ce qui fait aussi qu'il a pas commencé à déclamer ses propos, à changer son style et sa manière d'être et de dire. C'est parce qu'au début, c'est ça qui a fonctionné, c'était sa marque de fabrique d'être fidèle à Monsieur Tout le Monde entre guillemets.
Aussi. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Ah, c'est pas le bon.
C'est pas celle-là. Je sentais bien qu'il était moins emballé. Ouais. Voilà.
D'ailleurs, il a rien à voir, là, en termes de posture.
Déjà, ouais.
Bah, il s'exprime mieux. Mais c'est fou qu'il l'ait reperdu 5 ans plus tard. T'as l'impression qu'il
a
téléchargé le programme et il l'a viré.
C'est exactement ça, mais c'est à l'égal de sa carrière politique. Ça a fait voup.
Parce que même il dégage de la confiance, quoi.
Ouais, mais alors oui, mais en même temps, c'est intéressant, regarde.
J'ai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur...
Qu'est-ce qui te fait rire ?
C'est hyper intéressant, j'avais jamais remarqué. Il a les bras croisés.
Ah oui ?
Non, mais c'est fou, en fait. Je veux dire, on déconseille à 1000%... Quand tu veux embarquer, convaincre, faire passer un message, d'avoir les bras croisés.
Ta propre énergie, t'es coincé, quoi.
Mais totalement. On va en parler de respiration tout à l'heure, d'ancrage, de confiance, évidemment. Mais lui, ça va le rendre humble, là, dans ce qu'il dit. C'est un peu, regarde, on va dire un enfant, il soulève les épaules. Moi, président de la République, lui, ce qu'il veut montrer, en fait, c'est l'inverse de Sarkozy qui est en face et qui se pose un peu comme un flambeur, etc. Hollande, il dit presque, regarde, je suis timide. Et c'est peut-être sur ça qu'il joue.
Ok.
De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venait à être contesté.
Il arrive il allait refaire un peu le cliché de Hollande qui donne. Je sais pas ce qu'il fait exactement dans son intonation, mais ça part un petit peu.
Il y a des notes de musique un petit peu particulières, ouais, effectivement. Et là, il vient scander le fameux moi président de la République. Et ça marche très bien, en fait. D'une, on s'en souvient tous. On peut tous en reparler de ce moment-là. De deux, il a mis la personne avec qui il débat, donc à plat, puisqu'au fur et à mesure, bam, 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 ça l'enterre à force de répétition, c'est bête, mais quand tu répètes un message, tu viens convaincre l'autre. Et de trois, il vient rentrer dans la réalité et la mentalité de tous les Français qui l'écoutent que c'est possible qu'il soit président. Or, à l'époque de ce débat, c'était absolument impossible. Et ça a marqué un tournant, ce débat.
Dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer...
Ouais, t'as raison. Il traîne beaucoup dans sa voix.
Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit.
Mais tu vois, c'est intéressant, pardon, mais c'est l'inverse de Macron. En fait, il est mignon, on a vraiment envie de l'aider presque. Tu vois, on parle juste de l'orateur, mais il dit, moi, président de la République, presque en croisant les bras et tout. Et Macron, il se pète la voix en se mettant comme un aigle, comme ça, sur un... Et c'est très intéressant de l'image que tu veux donner à voir, que tu veux rendre, et la différence des personnalités qui s'expriment au travers des discours. C'est fou.
Les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation, parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République,
il l'assomme en fait. Il l'assomme, il lui met des coups.
Être considéré aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de...
Wow, il l'a répété, voir encore une fois, il le répète ça.
Je ne sais pas, mais c'est énorme et ça fonctionne. Et à côté de ça, il est plein d'imperfections.
Ouais.
Et ça marche.
Toi, comment tu tires de l'inspiration de discours comme ça? Parce que je peux me dire, putain ouais, c'était puissant le moi président, mais où est-ce que je le cale, moi président, dans ma prise de parole?
Ouais, effectivement.
Moi, non, entrepreneur.
Non, mais c'est ce que tu peux retirer, c'est que, et c'est la question que tu posais tout à l'heure, c'est que la répétition fonctionne.
Ok.
Voilà. Que la répétition cloue le bec de ton interlocuteur lors d'un débat aussi.
Ouais.
Toi, t'es pas dans le cadre d'un débat, t'es dans le cadre d'une conférence là à venir. Mais effectivement, la répétition, c'est un système rhétorique qui fonctionne très bien.
Super, c'était top. Des petites questions rapides de conclusion. Alors
aussi,
on a un petit rituel qui s'appelle l'interview inversée.
D'accord.
Tu peux me poser n'importe quelle question.
Ok, super.
Vas-y.
J'allais te poser une question sur ton t-shirt pour être très légère, mais non, pas du tout. David.
Dis-moi.
Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais ce soir?
Oh, c'est facile, je dirais je t'aime aux personnes qui comptent pour moi.
Ah zut, ouais, c'était facile. Ok, merci.
Est-ce que tu t'imaginais quoi? Je vais sauter en parachute, je vais...
Non, je sais pas, c'était pour mieux te connaître.
Et je ferai une vidéo aussi. Si je sais que je meurs ce soir, je fais une vidéo à mon audience pour leur dire ce que j'ai sur le cœur.
Ok.
Je leur souhaite de vivre une vie de ouf.
Ok.
Est-ce que tu penses, enfin la réponse est forcément oui, mais qu'est-ce qui a évolué dans la manière dont on prend la parole en public entre justement les images de Simone Veil et aujourd'hui?
Je pense que c'est le temps de concentration de l'audience auquel on doit s'adapter. Qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus sharp, beaucoup plus simple, malheureusement beaucoup moins philosophe et capter l'attention beaucoup plus vite.
Ce serait quoi pour toi un truc un peu contre-intuitif, paradoxal, qui est utile en termes de prise de parole en public? Quelque chose qui va un peu à contre-courant de ce qu'on pense souvent en prise de parole en public et qui permet de passer une idée, de transmettre, de convaincre, de persuader. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de faire comme ça et en réalité, c'est l'inverse.
Bah, ce qu'on s'est dit aussi déjà, deux points, ne pas assommer les gens de propos et peut-être leur dire juste une chose et pas 40 choses. Donc dire ce qui compte vraiment pour qu'ils le retiennent. Et peut-être, alors qu'on croit qu'il faut, pour impacter, qu'il faut, entre guillemets, être supérieur, même si je sais que c'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'il faut, c'est se mettre au niveau de l'autre. Je parle pas sur un plan d'importance ou hiérarchique, mais en fait, à partir du moment où, si t'as une audience devant toi qui est assise et que tu commences sur une scène debout, pour moi, si tu vas t'asseoir au bord de la scène et que tu leur parles, tu te mets à leur niveau, bah tout de suite, ça va marcher.
Stylé. C'est quoi un apprentissage que tu as eu dans la douleur?
Dans la vie ou dans mon travail?
L'un ou l'autre.
Que j'ai eu dans la douleur, bah c'est que c'est le fait de parvenir à m'aimer moi-même qui va faire qu'ensuite je pourrais être aimée par les gens que j'aime. Mais que c'est un immense cliché, mais c'est ce que j'apprends tous les jours. C'est que la personne la plus importante, c'est moi et que j'essaye de m'aimer tous les jours.
C'est quoi le moment qui a déclenché ça?
Bah, des ruptures ou une rupture amoureuse qui te met dans une merde émotionnelle absolue et qui te fait croire quand t'es jeune que tu n'es plus personne parce que tu n'es plus aimé et qui te fait comprendre qu'en fait, c'est pas de l'amour de l'autre dont tu as besoin en premier lieu, mais c'est de t'aimer ton amour de toi-même.
Mmh. Intéressant. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi?
Bah, je vais pas te le dire.
Bah,
surtout,
justement.
Bah, non.
Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que
ah
peu
ouais,
de gens
moi,
savent sur toi?
Ah ouais, moi, je suis très secrète.
C'est vrai?
Ah ouais, totalement. Bah, peu de gens savent sur moi.
Ça peut être un truc léger, hein.
Bien sûr, ça peut être un truc léger. Bah ouais, moi, je suis hyper émotive. Je pense que je pleure tous les matins et tous les soirs.
Waouh.
Ouais. C'est dur. Pas facile tout le temps.
Très sensible.
Très sensible. La majorité de mes émotions s'expriment au travers des larmes.
Donc c'est une forme de libération pour toi?
Totalement. Ça peut être positif.
Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui sont très sensibles, dont je fais partie d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à ça qui te permet aujourd'hui de soit mieux le vivre, soit même l'utiliser?
Plusieurs étapes et j'espère encore d'autres à venir. La première, il y a quelques années, de ne pas bloquer ses émotions, en fait, justement de les accepter, de les accueillir, de les laisser aller. Et puis, encore une fois, un peu cliché, mais que cette libération d'émotions, que je pouvais voir uniquement comme une vulnérabilité au début, pour moi, est plutôt du courage, de l'acceptation et l'expression de qui je suis. Puis si ça passe par ça, c'est comme ça, en fait, je ne le maîtrise pas.
Et tu dirais que ça t'apporte des choses aussi?
Ça m'apporte le fait que c'est quelque chose que je ne peux pas trop contrôler et que du coup, je suis assez moi-même de par cet aspect-là.
Et dans certaines prises de parole en public, tu utilises ça ou pas?
Non.
Non?
Je...
Tu n'as pas sur ce terrain-là?
Non, parce qu'en général, mes prises de parole sont professionnelles et que cet aspect-là de moi, il n'existe pas dans ma sphère professionnelle. Ça ne veut pas dire que je le nie. C'est pas...
Ouais.
Tu vois, quand je te dis peu de monde le sait, parce que je ne vais pas accueillir mes clients en disant bonjour, j'ai pleuré avant, je pleurerai après, mais ça ne s'exprime pas dans le monde professionnel.
Tu parlais d'argent tout à l'heure. Mm-hmm. C'est quoi un des meilleurs investissements que tu aies fait?
La formation.
Te former.
Que soit, ouais, me former. C'est toujours, il y a toujours un effet boomerang. Quand j'apprends, je peux mieux accompagner, je peux mieux transmettre. Donc pour moi, c'est investir sur soi.
D'ailleurs, j'allais le sauter, mais j'étais fasciné par cette histoire que je ne connaissais pas. Ça doit être sacrément, je sais pas, étonnant, perturbant. Donc, tu t'es formé au coaching et le fondateur ou le directeur, je sais plus, a commandité un meurtre d'une directrice d'une autre école de coaching.
Totalement. Mais tu n'en as pas entendu parler?
Ah, mais non. Mais c'est fou d'ailleurs que je n'en ai pas entendu parler, surtout que c'était apparemment il y a 3 ans. Enfin, franchement, on dirait un film.
Ah, mais c'est totalement ça. Moi, je ne suis pas encore rentrée dans la réalité de ce truc.
Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est... Je l'ai relu, je suis allée sur Internet, j'ai dit, oh merde, mais c'est fou.
C'est hyper bizarre. Ça vient totalement chambouler, en fait, l'image de cette personne, qui était donc le directeur de l'Institut de coaching. Et je l'ai connu. Il apparaissait comme une figure autoritaire, figure, quand t'es apprenant, en plus.
Charismatique.
Exactement. Mais il l'était. Dès qu'il rentrait dans la pièce, tout le monde se taisait, etc. Bref, et il a fait la une de plein de médias il y a peut-être 2-3 ans sur cette histoire.
C'était le fondateur, du coup?
Ouais, c'était le fondateur. Ah, ils étaient
violent.
Deux, je crois. Et c'est fou, et c'est vraiment... Mais quand tu lis les articles, c'est dingue. Et après, les flics ont mené une enquête et on a compris que lui, il vivait dans une villa barricadée en autosuffisance, en autonomie, etc. Parce que il pensait qu'on allait le tuer aussi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais pour des histoires de certification d'école, il était en conflit
compétition.
Avec compétition, merci, avec une autre école, et il a voulu s'en prendre. Attention, hein, selon ce que j'ai entendu, c'est pas mon avis. Il a voulu s'en prendre à la directrice de cette école et il a commandité un meurtre, mais qui est devenu une histoire mais terrifiante.
Ah, mais complètement. Ça mérite un docu.
Ah, mais il y en a.
Moi, je voudrais voir.
Mais il y a des émissions, je crois. Je sais plus. Il y avait un reportage sur Arte. Ça a fait 10 pages dans Vanity Fair. Enfin,
mais c'est fou.
Et c'est fou.
Mais le jour où tu l'apprends, ça doit être. enfin une tarte, c'est enfin c'est horrible, enfin je sais pas comment dire.
Ah complètement. C'était très bien.
Parce que tu as, c'est bien un endroit où tu te dis non, enfin.
Exactement, tu l'associes. C'est la personne qui t'a transmis ou en tout cas qui t'a transmis la philosophie, les postures et les outils du coaching. Donc d'un coup tu fais oh là là, c'est comme si en fait ouais, tout ce label, t'as été dans cet institut, t'es certifié de cet institut, comme si d'un coup tu devenais un peu criminel toi aussi d'une certaine manière. Tu vois, t'as wow. ça tout de suite qui se.
Ça a dû créer le chaos parmi les élèves aussi.
Ouais, alors moi j'en étais détachée depuis longtemps donc ça va, mais j'étais en relation avec des nouveaux élèves qui m'ont dit mais c'est un enfer, notre année est foutue par terre, etc. Et aussi je trouve que ça donne une très mauvaise image des écoles de coaching qui sont un business qui est aussi pourri que beau quoi, mais comme dans tout.
Mmh. Et enfin ouais, j'imagine, j'essaie de me projeter le jour où tu l'apprends à quel point c'est t'arrives
c'était
pas à croire que c'est vrai, quoi.
Un film de science-fiction, exactement. Et après j'ai eu une relecture quand même. Parce que je sais que je me disais, ouais, le mec, il a tel style, son petit foulard, son truc. Et on rigolait quand même sur un excès de charisme qu'il avait.
Qui cachait quelque chose.
Exactement. Et maintenant, tu te dis, ouais, en fait, ça m'étonne pas trop.
Mmh. Ça, c'est super intéressant. Hein. Quand tu regardes Hitler, il y a le personnage public, de scène, etc., machin, excès de confiance. Et apparemment, quand il était tout seul, il se repliait sur lui-même, complètement impuissant. À pas être bien, et t'avais vraiment deux personas extrêmement différents. Et enfin, j'aime bien cet exemple parce que souvent il y a des personnes qui me décrivent des gens qu'ils connaissent, personnages publics ou non, en disant mais tu verrais comme, comment il a tout le temps confiance. Je dis attention, hein, le personnage que tu vois, c'est une partie de la réalité. Et c'est fascinant effectivement quand la personne elle a un désir de projeter uniquement un visage de surpuissance, ben ça cache très souvent un complexe d'impuissance.
Totalement. T'as une question d'équilibre en général qui est très, très présente. Je sais qu'à titre personnel, si je peux me permettre, moi quand j'étais ado par exemple, j'étais une personne assez sur la défensive, j'étais assez agressive. J'aimais, quand j'y repense, j'aimais pas mon comportement, mais parce que j'avais peur qu'on vienne m'agresser. Ouais. Et tu vois, que j'étais animée par ça, avant même qu'on vienne m'embêter,
tu te protèges.
Et ben moi j'allais... ouais, c'est ça. Exactement.
Intéressant. Qu'est-ce que tu souhaites aux personnes là qui nous écoutent, si tu avais un dernier message à partager?
Bah, je leur souhaite de décider de travailler leur communication orale s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Parce qu'en fait, évoluer dans sa communication, ça peut permettre d'évoluer dans plein d'autres sphères, comme on a essayé de le démontrer toi et moi aujourd'hui. Et je leur souhaite de prendre du kiff en prenant la parole. Parce qu'on a parlé de peur, on a parlé de stress, on a parlé de rougeur, on a parlé de sueur. Mais en fait, il y a aussi des moments où quand tu prends la parole, tu prends un plaisir que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Une sorte d'adrénaline qui peut être quand même identifiée à des moments de courage et de bravoure qui sont extrêmement jouissifs. Et quand t'en arrives là, et c'est pas tout le temps, hein, bah tu touches un plaisir à côté duquel il aurait été dommage de passer.
Et c'est drôle ce que tu dis parce que donc j'ai fait un premier TED que j'ai pas aimé parce que typiquement j'ai... pour la première fois de ma vie, essayer d'écrire un texte et de l'apprendre par cœur. Donc, j'étais très tendu, très rigide en l'intérieur de moi. Et même s'il a marché dans une certaine mesure, moi, j'aime pas me voir, parce que je sais, je vois comment je suis tendu. Le deuxième, que j'ai d'ailleurs beaucoup moins préparé, je le préparais quasiment la veille, le jour même. Je me suis dit trois mots avant de monter sur scène. C'est pour ça que je réagis à ce que tu viens de dire. Et l'un des trois, c'était un truc du genre « prends du plaisir ». Justement, je m'étais dit, je vais expérimenter l'opposé de ma première version où j'étais tendu. Et vraiment, je suis allé sur scène en mode, j'avais envie de... Donc, c'était kiff, un truc comme ça, ou prendre du plaisir, présence. Et je sais plus, il y avait quelque chose autour de, bah, de me connecter à eux, de les servir. Et le combo de ça, c'est avec que je suis arrivé sur scène. J'étais vraiment content d'être là. J'étais content d'être avec la salle. J'étais connecté au message que j'avais envie de leur transmettre. Et quand je le vois, il y a plein d'imperfections orales, mais je pense que ça, aujourd'hui, c'est le TEDx francophone le plus vu. Je suis plus 4,5 millions, un truc comme ça, de vues. Et je sais que c'est lié, entre autres, à l'énergie où je suis détendu à l'intérieur de moi.
C'est
ça. Je suis arrivé en t-shirt, décontracté. Et du coup, je pense que je transmets une autre énergie que dans la première version. Dans la première TED, quoi.
Le premier où, et c'est un passage obligatoire quand tu fais, pour une première fois, ce type d'événement, où tu te dis, bah, en fait, il faut que j'aie une chemise. Il faut que je parle comme ça. Et comme on le disait au début, bah, tu t'éloignes de toi et du coup,
horrible.
Ça va pas. Et tu te reconnais pas quand tu te vois.
C'est clair. Merci en tout cas.
Merci David.
Avec plaisir.
Cool.